With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue pour ce nouveau jeu du tour. On a commencé avec un grand débat déjà sur la menthe. Voilà, on commence déjà avant
les vrais sujets.
Les vrais sujets, les sujets qui fâchent.
Il y a du sirop, ce n'est pas sponsorisé. du sirop à la menthe. Et Camille m'a dit non, mais c'est que pour le dentifrice.
Non, voilà. La menthe, faut arrêter la menthe. Dites la menthe, faut arrêter. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Non, en vrai, petit tour de table, la menthe, oui ou non? Oui, pour toi?
Oui, mais en vrai, le sirop à la menthe, c'est un peu genre le t-shirt blanc du dressing, tu vois. C'est un basique, un bon basique.
La menthe, c'est un basique, mais tu me dégoûtes.
Non, j'écris pas la violette.
Ah voilà, là on parle.
Mon sirop préféré, c'est la violette.
Là on parle Sophie.
Alors non, catégoriquement. Désolée, vraiment.
Ça c'est fait.
Mais pour la petite histoire, sachez que je suis très malade en transport et tous les médicaments contre le mal des transports sont souvent à la menthe.
Sont souvent à la menthe. On
c'est
est
un
encore.
Ouais. Et en fait, du coup pour moi la menthe me rappelle ça de
bonne
gerbe.
Ne partez pas en vacances avec Sophie.
Voilà,
du coup,
c'est le mot. J'étais voyage scolaire toujours devant.
Ah mais pareil. Oh, c'était toi, t'étais cette personne.
Exactement.
Sophie, t'as placé là, voilà. On voilà, entend ouais. Dans le bus.
Il y a Clémence M. Camille dans le chat qui dit sur Violette le sang.
Comment elle va?
On est entièrement d'accord.
Ah oui, Clémence est grande fan de Violette. Ouais, tout à fait. c'est moi ou la journée, c'est un faiseur de Jennifer Lawrence. C'est fou, on me l'a jamais dit. C'est incroyable. Je suis Jennifer Lawrence du pauvre. On dirait que j'ai mangé Jennifer Lawrence. C'est incroyable. C'est vrai. Va voir mon Twitter. Regarde la page de couverture et tu auras de belles surprises. En tout cas, bienvenue les copains. Maëlle,
allô.
Menthe ou non?
Alors moi, si je peux remonter loin dans mon enfant, j'ai toujours détesté la menthe. Enfant, voilà, vous le savez. Et je commence à renouer un petit peu avec.
C'est la vieillesse.
Le dentifrice passe bien. Bah, j'ai toujours. Alors la glace
Attends,
à la menthe, c'est non.
Comment tu t'avais pas la menthe.
Bah il y a des dentifrices sans menthol, donc je n'avais le choix que pour un dentifrice. Voilà.
Mais du coup, c'est un dentifrice à quoi ?
Il a un goût assez. Je sais plus, c'est le. Enfin, je sais même plus c'était quoi la marque.
Ouais, en fait, mais elle ne se lave pas les dents.
Oh waouh, depuis 35 ans, elle ne se lave pas. Non, mais j'avais un dentifrice, mais justement, j'avais un gros problème de menthe, et maintenant, il est plus ou moins réglé. Et je tolère.
Bah,
tu
sais quoi, moi, je tolère pas que le dentifrice soit toujours à la menthe et qu'en plus, il arrache la gueule. Je pense que c'est une vérité qu'il faut que je dénonce aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi on s'impose de donc brûler les gencives quand on se lave les dents. Voilà, je vous le dis. Ou alors, peut-être que je suis allergique. Oh, et je le découvre maintenant avec vous. Quand vous brossez les dents, ça vous arrache pas la gueule?
Mais t'as des niveaux de. T'as des dentifrices, en effet, qui sont ultra.
Ultra forts. Moi, ça me défonce la gueule, hein.
Mais t'as des trucs, l'eucalyptus, sont moins forts que ceux au menthol, par exemple.
Certes.
On peut pas prendre des dentifrices juste à la fraise, genre, tu vois.
Il y a un dentifrice que j'aime beaucoup, c'est toujours pas sponsorisé, mais c'est celui de chez Horace. Il est à l'iris. Bon, j'aime beaucoup les fleurs.
À l'iris, un dentifrice à l'iris.
Bon, c'est un petit peu mentholé, mais.
C'est un bonbon parisien, je pense.
Mais c'est très doux.
Alors, sirop de violette, iris, on est très fleuris.
Je suis très floral. Voilà.
J'adore les fleurs, moi. La menthe, c'est que dans les chewing-gums et dans le dentifrice.
Fair.
Merci Inès pour ça. Bienvenue le chat en tout cas. Merci beaucoup à tous d'être là. Clémence, Fabienne qui est là pour la première fois. Bienvenue. Il y a Inès évidemment. Nérou, membre du Crew Mademoiselle, elle a regardé sa chaîne. Très très important. Personnellement, je me brosse les dents à la ponceuse à bois et ça fait un peu mal, surtout avec le dentifrice paradoxe.
Ah, le parodontaxe, c'est formidable, mais alors c'est dégueulasse. Vraiment, on peut parler du parodontaxe.
C'est un vrai truc. Moi, je connais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est.
On alors, dirait, non, c'est un dentifrice qui a goût de. T'as l'impression de manger de l'argile au sel. C'est infâme.
Délicieux.
C'est infâme. Mais après, tes dents sont d'une blancheur et sont si douces,
ouais.
C'est incroyable.
Et lisse, ouais. Parce
c'est très très lisse, ça te détarte, mais ça te décape, quoi, vraiment. Voilà, on va parler de dentifrice.
On peut parler de dentifrice pendant 3 quarts d'heure. Hein. Spécial dentifrice.
Hygiène bucco-dentaire, on va faire un live hygiène bucco-dentaire.
Est-ce que vous utilisez du fil dentaire, d'ailleurs?
Ouais, moi, ouais. Mais parce que je trouve ça très satisfaisant.
Mais à quelle fréquence pour,
je sais pas, une fois tous les deux jours, un truc comme ça.
Ah ouais, t'es déter.
Parce que c'est satisfaisant, pour moi, c'est comme le coton-tige, tu sais, il faut pas trop le faire, mais en même temps, c'est super satisfaisant, quoi. J'ai pas.
Le coton-tige, ça me
dégoûte. Je peux pas le faire.
Oh, j'ai des dents trop parfaites.
Non, c'est pas. Désolée.
Mais... j'ai des dents trop droites et trop.
Et Sophie, à l'avant du bus, encore.
Bon, pardon, on va pas parler que de dentifrice et de.
Nérou était personne pour parler parodontax longtemps. Hein. On peut se retrouver plus
tard. La parodontax, en fait, c'est surtout pour les soins des gencives chroniques, des maladies comme la parodontite. Mais alors, Nérou, je ne savais pas que tu avais une connaissance latente. Je te laisse parler à Maëlle de ça.
On se capte après.
J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Du coup, les amis, on reçoit Maëlle, Anthony et Sophie. Sophie qui n'a pas encore été sur un jeu du tout. Si, une fois.
Il y avait Marie aussi, je crois, ce jour-là.
Oui, exact. C'était notre première fois.
C'était il y a longtemps. Hein.
Ouais.
Et est-ce que tu es contente de revenir? Va me dire non, ferme ta gueule.
Mais oui, sinon je ne serais pas là. Vraiment, je trouve que je suis très bien accompagnée pour cette deuxième édition.
Et tu viens aujourd'hui avec une chronique un peu spéciale en plus. Tu viens nous parler de
Des séries qui mettent en avant des personnages LGBT. En personnages principaux.
Et ça, c'est très important. On se demande, est-ce que ça existe aujourd'hui beaucoup de personnages LGBT principaux? Parce que, évidemment, ouais, il peut y avoir le personnage secondaire, la copine, machin, etc. Ça, je comprends. Mais est-ce qu'en personnage principal, il y en a beaucoup? On va en parler aujourd'hui. Et le chat, vous allez voter pour quel sujet on va parler en premier dans les chats. N'hésitez pas à nous dire. Donc, Sophie va parler de personnages LGBT dans les séries. Anthony, bienvenue. Habitué maintenant, hein. Sachez-le, avec Anthony, on a eu un petit quiproquo, parce que je sais plus quand.
Dans ma tête, c'était chez moi ici, en fait.
Ouais, genre, en fait, Anthony, de base, je lui demande, mais Anthony, du coup, cette semaine, tu viens sur Jeudi Tout? Il fait, bah ouais, genre, bah non, je suis tout le temps là. Il m'avait pas dit qu'il venait tout le temps. Du coup, Anthony, qui est maintenant co-animateur ici.
Actons ensemble que je viens toutes les semaines. Voilà. C'est un grand plaisir de participer à Jeudi Tout avec toi.
Bah non, mais merci beaucoup à toi de venir. De venir souvent. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler, hélas, d'une triste nouvelle, enfin, pour cette personne, mais une très bonne nouvelle pour l'Amérique et pour toutes les victimes. C'était un lancement très très bancal, je suis navré, c'est les aléas du direct. Ce que je voulais vous dire, c'est que R. Kelly, prédateur sexuel notoire depuis une vingtaine d'années au moins, vient d'être condamné à 30 ans de prison pour tous ses crimes sexuels, en fait.
Donc, enfin
voilà. Ouais, enfin, justice peut commencer.
Maëlle. Non mais si, un peu de joie là, s'il vous plaît quand même, c'est important, c'est un sujet, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. J'avais même pas vu la nouvelle, tu vois, donc c'est formidable.
Ça vient de tomber, c'est ce matin, hein, cette nuit, ce matin quoi, voilà.
Attends, c'est hier soir ou c'est ce matin? Parce
que hier soir aux États-Unis, donc ce matin.
Décalage horaire, ok. On ne fait rien.
Comment tu vas, Maëlle? Merci beaucoup d'être là. Tu vas parler de quoi?
Écoutez, un peu fatiguée vu que hier on était en live ici même pour parler IVG, et ce midi même, je vais reparler d'IVG, hein, vu que c'est un peu le sujet du moment. Donc on reste aux États-Unis et voilà, on va parler. Mais on va aussi parler de ce qui se passe en France justement sur le sujet. Et voilà, donc on va parler du droit à IVG, ouais, de ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi c'est très inquiétant.
Est-ce que ça nous impacte
ouais. Est-ce que ça risque de nous impacter en France? Voilà. Donc on va parler de tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Et oui, d'ailleurs, parce que tu dis que tu vas revenir sur le sujet, parce que hier on a fait un live ici en plateau. Peut-être que si vous l'avez manqué, il est dispo en replay. Où Maëlle a animé du coup complètement un live, la première édition de Mad le Prime. Ça va être une émission
qu'on espère récurrente. Voilà, on va commencer à,
dès qu'il y a une...
à décliner un peu ce format qui permet de, pendant 2 heures, d'inviter des expertes, des militants, des intellectuels, voilà, pour aborder un sujet d'actu, que ce soit en France, que ce soit à l'international, et justement pouvoir parler en profondeur des choses et pouvoir écouter des personnes qui maîtrisent bien les sujets, qui peuvent répondre aux questions qu'on se pose.
Oui, parce qu'il y a des invités aussi à chaque fois.
Voilà,
il y avait 3 invités.
Voilà, on avait donc Marie-Cécile Nave, qui est une politiste spécialiste des questions de féminisme et spécialiste des États-Unis, donc avait un peu cette double casquette
assez calée pour parler
assez calée, donc c'était hyper intéressant parce qu'elle nous a vraiment expliqué en profondeur ce que c'était que cette décision Roe versus Wade dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Il y avait avec elle Sandra Vizzavona, qui est avocate et qui a écrit aussi un livre de témoignage sur l'IVG, et Alexandra
Dos
Santos Dantas.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Je n'ai pas inversé les mots dans son nom de famille, et qui est, elle, interne en médecine et qui travaille aussi, qui est bénévole dans un réseau qui s'appelle le Révo et qui fait justement le lien entre l'hôpital et la ville, et qui fait de la formation, en fait, notamment auprès des professionnels de santé sur les questions gynécologie obstétrique. Donc voilà, c'était assez complet comme live. On a pu parler de beaucoup de choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, ouais, sur la question de l'IVG, des difficultés d'accès à l'IVG notamment aujourd'hui en France.
C'est vrai. C'était un live très intéressant qui vous a en plus pas mal intéressé. Vous étiez sur le chat. Regardez-le si vous voulez en replay sur Twitch. Il sera aussi dispo sur YouTube.
Ouais, et on va le faire en version podcast aussi.
Voilà, si jamais vous avez envie de le réécouter, que vous n'étiez pas là. Et bien les amis, alors par quoi on commence? Dans le chat, Nero Clem, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tente le plus en premier? Comme ça De but en blanc,
c'est joli.
Oui, aussi, ouais.
À chaque fois, je ne sais pas. Voilà, je dis de but en blanc. Donc, on a en soi le droit à l'IVG, l'interdiction de l'IVG. On a R. Kelly. Super. Et on a... j'ai hâte de savoir, enfin, c'est pas joyeux. Et du coup, les personnages LGBT. Et je pense que Nero veut commencer par ça. Les personnages LGBT sur Disney, c'est une bonne idée. Et bah, magnifique, la glace à la violette. Non, mais les séries, si on parle
de... La glace lavette, c'est super bon. Et oui, pour les personnes qui vivent à Paris, devant le jardin du Luxembourg, il y a un camion de glace qui vend toute l'année presque des glaces, dont un parfum violette vraiment délicieux. Voilà.
Mais t'as déjà
c'est toujours pas sponsorisé.
C'est ce que j'allais dire, mais qu'est-ce que, comment tu fais pour avoir
à Toulouse? Bah non, pourquoi?
Non, alors j'embrasse tous les Toulousains. Sachez que Toulouse est la ville de la violette et que quand vous allez dans n'importe quel tabac... bureau de, enfin voilà,
buraliste, ou, buraliste
voilà, etc. Ou même à la gare, vous pouvez repartir avec des bonbons à la violette, il y en a partout.
Mais c'est trop bien. Vraiment. Ça.
C'est gratuit?
Non. Voilà. C'est,
bah oui, j'avoue.
D'accord. Non, non, mais t'as tout. Vraiment, c'est la spécialité du. T'as plein de trucs à la.
C'est très, très chiant, je savais pas du tout.
Eh bien, s'il y a des Toulousains et Toulousaines dans le chat, invitez-moi.
Invitez-le, ouais, s'il vous plaît.
Et offrez-moi des fleurs.
Salut Chicha qui nous a rejoint, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là. Eh bien, écoute, je pense qu'on va commencer par la petite chronique sur les personnages LGBT sur Disney, sachant que Clémence est très hypée, surtout si on parle de. Heartstopper. Heartstopper.
Ah, c'est pas, ça fait pas partie de mon classement.
Ça fait pas partie du classement.
Désolée.
Si vous voulez. On va découvrir. Mais... Dis-nous tout.
Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui même sur Mademoiselle, vous pouvez le voir à l'écran.
J'allais boire mon micro.
Super.
Il y a un article qui s'appelle « Trois séries dont les rôles principaux sont des personnages LGBTQIA+ ». Voilà, alors vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez l'actualité que nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois des fiertés.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Après, c'est fini. Ça existe plus. Hein.
Après, mais l'élément disparaît. Genre.
Non, on devient hétéro après.
Ah oui, d'accord.
Compliqué, mais bon, bref.
Une transition. D'ailleurs, vraiment. Maëlle,
Coucou, Anthony. On sait pas faire.
Et du coup, voilà, donc d'un côté, mettre en avant des séries avec des personnages principaux LGBT, c'est finalement continuer un petit peu à être militant, j'ai envie de dire. Ça donne de la visibilité à ces personnages-là.
Ouais.
Voilà, alors, comme je viens de le dire, c'est très important. Donc les séries que je mets en avant dans cet article, c'est Love, Victor, dont la troisième et dernière saison sort.
Ah, c'est un teen drama, c'est pour moi ça.
Voilà,
c'est pour
teen moi, ça. Drama, très sympa. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc les trois saisons, c'est des mini-épisodes d'environ 20-30 minutes. Ça se dévore, vraiment.
Oui, c'est assez rapide comme, voilà, comme donc, format, ouais.
Voilà, pareil, de 8 épisodes chaque saison. Et la dernière saison et ultime saison, du coup, sort actuellement sur Disney+. Et voilà, c'est un bonbon, j'ai envie de dire. Alors pour la petite histoire, la série est un spin-off d'un film qui est sorti en 2018, qui s'appelait Love, Simon.
D'accord, okay.
Voilà, et donc ça se passe un peu dans le même univers que le film. Je sais pas si vous l'avez vu.
Je ne l'ai point vu.
Love, Simon.
Bon. Non.
Voilà, pareil, ça se passe dans le même lycée, voilà, que ce team drama là. Et là, c'est relié en fait. Donc, ça s'appelle Love, Victor. Victor, le héros donc de la série, comme vous l'imaginez, arrive avec sa famille du Texas et emménage à Atlanta et fait son entrée dans le lycée de Creekwood. Voilà, et voilà, le héros, on sait dès le début qu'il essaye de s'intégrer, etc. Mais il commence à ressentir des sentiments, enfin de l'attirance pour un garçon.
Sentiments.
Voilà. Et voilà, en fait, toute la série, ça va être je découvre un peu ma sexualité, qui je suis. Je découvre aussi que la sexualité n'est pas linéaire, qu'il peut y avoir tout type.
Que ça peut varier.
Voilà, ça peut varier, tout type de choses. Ses amis aussi, du coup, il arrive à se faire un groupe d'amis, vous l'imaginez.
Il arrive à se faire des potes, moi j'imagine pas ça. Au lycée. Écoute, j'ai jamais eu de potes au lycée. Hein.
Eh bien, ça sera l'objet d'un autre live, du coup.
Ça sera... j'en parlerai à ma psychiatre, voilà, tout simplement. Allez, non, j'ai...
mais voilà, donc on le voit arriver avec sa famille à Atlanta, donc... Donc voilà, non, mais c'est très chouette. Et la chose que je trouve très intéressante dans cette série pour ados, c'est qu'au-delà du fait que je découvre ma sexualité, je découvre ce que j'aime pas, etc. Et je découvre mes attirances, enfin bref. Il commence une relation un peu épistolaire par SMS avec Simon, qui était le héros du film, qu'on verra très peu tout au long de la série.
Ah, voilà. Ok, vraiment, c'est...
Ouais, et il lui écrit des SMS, il lui raconte sa vie. Personne n'est au courant de ça. C'est la seule personne à qui il se confie vraiment tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense.
Simon lui répond ?
Et Simon lui répond, en fait. Lui répond quasiment quotidiennement.
Je sais pas pourquoi j'ai cru que t'allais me dire, et en fait, il est mort.
Non, je jure, moi, j'attendais un truc, genre, en fait, il est dans sa tête, tu sais, le truc trop bizarre.
Et Simon, du coup, après le film, part s'installer à New York où il vit pleinement, il se révèle, voilà, il est gay, assumé, etc. Alors que c'était pas vraiment le cas quand il était au lycée, ce qui arrive assez souvent finalement.
Tu nous spoiles la série là ou je suis en train de...
Non non, ça c'est... Ah, non, c'est... T'inquiète, t'inquiète.
Ah, en fait la fin c'est fou parce que le mec... Ouais.
Ça c'est vraiment... t'inquiète pas. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup tout au long de la série, eh bien Simon donne des conseils et c'est un peu sa, sa petite voix...
Son ange gardien,
son Jiminy Cricket. La morale, ouais. Il lui dit mais c'est pas grave que tu ressentes ça, c'est pas grave que... Écoute, t'as essayé de sortir avec cette fille... Si t'as apprécié le moment, c'est pas une mauvaise chose, mais...
Ouais, sans jugement, voilà. Juste...
Voilà, et il lui donne des conseils tout au long de la série, et en fait, chaque épisode, comme ça, t'apprends des choses un peu plus sur Simon, et sur... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'identifications possibles pour les personnes qui regardent.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, mais du coup, c'est un petit... C'est ludique, quoi, comme série.
Trop cool. Donc, et ça, c'est pop.
Love, Victor. Voilà, et dans la dernière saison, évidemment...
Parce qu'il signe tous ses SMS avec écrit Love, Victor, ou pas?
Non. Mais
est-ce que vous signez vos SMS déjà?
Parfois, ouais.
Mon père, mais avec les gens que tu connais pas.
Ça veut dire c'est quoi ça mignon.
Non, mon père, il signe toujours.
Ouais. Ah, trop mignon. Il signe quoi mignon.
Papa qui t'aime et qui t'embrasse bien fort.
Oh.
On embrasse Papa Anthony.
Les gens qui s'aiment, ça te dégoûte. Allez, ensuite.
Mais voilà, une série très mignonne, très ludique, et vous pouvez le regarder même si vous n'êtes plus au lycée. Ça se divorce un petit peu.
Oh oui, mais ça veut rien dire.
C'est un truc qui m'interroge toujours d'ailleurs, c'est pourquoi les adultes regardent des séries pour ados. Des séries sur les ados.
Parce qu'il y a énormément de ça aujourd'hui.
Je comprends pourquoi les productions font des séries dans des collèges et des lycées et des facs, parce que c'est beaucoup moins cher, c'est un écosystème, une micro-société, plutôt que d'avoir des gens qui vivent dans une ville avec chacun sa maison, chacun ses bars, ses sorties et tout. Que les productions fassent des séries qui se passent dans des lycées, des collèges, je comprends, mais que le grand public regarde ça, genre...
Bah, je sais pas, moi je trouve que les séries pour adultes, parfois, elles me font un peu déprimer, quoi. Enfin, je sais pas, j'aime bien les séries pour ados, parfois c'est good vibes, parfois c'est...
Bah, c'est mignon.
Est-ce que tu t'identifies?
Ouais, si, quand même, un peu. Là, il y a une pléiade de personnages. Le groupe d'amis est assez hétéroclite. Donc, vraiment, tu peux te dire, ça te rappelle des souvenirs. Il y a vraiment le truc.
Ouais.
Et la découverte des émotions, de l'attirance et tout, c'est... voilà, tu te dis, ça te rappelle des souvenirs. Ouais, c'est ça, vraiment, la nostalgie, je pense qu'il joue beaucoup.
Et avec un peu de chance, les adultes peuvent se découvrir eux-mêmes.
Oui.
Et puis, en disant, bah, c'est pas, peut-être pas trop tard. Enfin, je sais pas, genre, tu penses, en disant, je me suis jamais posé la question, quand moi, j'étais au lycée. Tu vois.
C'est ça, mais... oui, il y a un peu de ça. Et puis là, dans cette série, en l'occurrence, donc, il arrive avec toute sa famille, la famille Salazar. Salazar. Voilà. Il s'appelle Victor Salazar. Et du coup, t'as aussi les parents, comment. Voilà, t'as toute une histoire autour des parents aussi.
Ils sont impliqués aussi.
La famille. Parce que lui, il vient d'une famille qui est donc latino, plutôt très catholique. Donc, assumer ses sentiments homosexuels, c'est pas évident. Voilà, donc ça aborde tout un tas de thèmes aussi assez intéressants.
Il y a la Chicha qui dit, moi qui suis maman d'une ado de 14 ans ayant vécu une adolescence un peu ingrate, j'avoue que ça me réconcilie avec les idées d'aujourd'hui et me rassure pour ma fille. Voilà, incroyable, incroyable Chicha, trop cool. Est-ce que dans le chat peut-être il y en a, vous n'êtes pas tout jeune hein, je vous connais, est-ce que vous regardez des séries pour ados? Clem, je sais qu'elle regarde beaucoup, est-ce que vous regardez des séries pour ados alors que vous avez soi-disant passé l'âge du coup de regarder des séries pour ados?
Mais à ce sujet-là aussi, je pense que c'est des productions, bon, Love Victor, je sais pas si c'est le cas parce que je l'ai pas regardé, mais tu m'as donné très envie, Sophie, merci beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de séries avec des ados qui sont pas pour les ados. Et
Euphoria
par exemple, ouais.
Et Euphoria ne fait pas être partie de Disney, ouais, sûr.
Et voilà, et donc Love Victor, je me dis aussi peut-être que, surtout pour les personnes LGBT d'ailleurs, les personnes LGBT plus dans la vraie vie, ça peut aussi peut-être leur permettre de revivre leurs années collège-lycée de façon plus...
Ouais, ouais, complètement.
Faut juste d'assister au fait que le monde d'aujourd'hui est différent de celui dans lequel on a évolué ado et que,
oui,
que c'est mieux et que en fait on peut faire des séries qui en parlent et qui sont pas juste centrées sur du bullying ou du coming out traumatique, et ça c'est quand même vachement bien. Enfin, ouais, c'est le cas pour Love Simon et Love Victor.
Et Love Simon c'était le film, ouais.
Ouais, voilà.
Qui est aussi disponible sur Disney Plus si jamais
vous voulez. Du coup, c'était le cas pour le film et je crois que c'est un peu le cas aussi pour la série, c'est que tu peux parler d'homosexualité à l'adolescence sans tomber dans forcément dans des trucs horribles et douloureux, traumatisants et du harcèlement et ne faire que une narration autour de ça, en fait, de montrer, bah oui, c'est pas évident parce que l'adolescence, c'est pas évident de manière générale, en fait.
C'est horrible comme.
Mais voilà, je pense qu'on n'a pas toujours des bons souvenirs avec ça. Mais en tout cas, qu'on peut aussi raconter des choses pas forcément toujours positive, mais en tout cas que, bah, que ce soit pas juste du drame, justement, dans le sens le plus dramatique possible, et que ce soit juste des choses horribles, en fait. Oui, ça existe, mais en fait, on peut aussi montrer des bonnes choses, quoi.
C'est ça.
Oui, ça peut à la fois réveiller, nourrir, entretenir la nostalgie, à la fois être un baume au cœur et revivre sa jeunesse par procuration.
C'est possible, quoi, ce qui se passe mieux. D'être un ado gay heureux, en fait.
C'est quand même quoi pas...
Que bah.
Pas possible. Et ça m'intéresse la suite parce que je vois qu'il y a la première production italienne à faire entrer.
Alors là, pour le coup, c'est The Ignorant Angel.
Ça veut dire les anges ignorants, si jamais il y en a qui parlent pas anglais.
Ça se dit pas ignorant.
Oh, t'es relou!
Excusez-moi.
Ok, anglais LV1, ça va.
Et du coup, c'est une série qui est inspirée du film Tableau de famille, qui est sorti au début des années 2000, qui est fait par le même réalisateur, en fait.
D'accord,
qui a adapté lui-même son film en série, qui s'appelle Ferzan Ospetek. J'ai des lacunes en italien. Voilà. du coup.
Y a quelque chose à dire sur l'accent de Sophie, Anthony, ou pas?
Non, pas du tout.
Alors, en fait, ça se dit pas comme ça se dit italiano.
Barilla.
Voilà. Et alors pour le coup là, tu vas peut-être être plus content. C'est une série avec des adultes. Ça ne se passe pas au lycée.
Mais
voilà.
Je n'étais pas mécontent, Sophie.
C'est vrai, vu que tu casses les couilles. En fait.
Mais du coup, cette série est aussi que j'ai découverte il y a peu. Il y a une saison pour l'instant où il y a environ 8 épisodes.
J'aime bien quand il y a une saison.
En revanche, les épisodes là sont beaucoup plus longs. C'est des formats de 50-55 minutes.
C'est très bien.
Voilà.
Très cool.
Et voilà, c'est assez touchant. Je vous résume un peu l'histoire. C'est le héros, Michele, avait une relation avec Massimo. Mais sans savoir que celui-ci était marié avec Antonia. Voilà. Et du coup, l'histoire. Michele est un artiste, donc l'histoire ça se passe à Rome, c'est un artiste, il vit dans une espèce d'immeuble où dans l'immeuble tout le monde est copain, ils
c'est
se
beau.
Rejoignent.
C'est beau ou pas?
C'est
esthétiquement,
sympa.
C'est.
Est-ce que les acteurs sont beaux?
Ça va, oui, ça fait plaisir.
Ça va. petit ça va quand même.
Non, mais ça va, ça fait plaisir. Si t'aimes bien.
Imagine,
les...
on parle de ton physique, on dit oui, ça va.
Non, mais
ça fait plaisir.
Non, mais.
Sophie, ça va.
C'est pas méchant de dire ça va.
Non, c'est pas méchant.
Anthony trouve que oui.
Mais non, parce que moi je trouve ça bien quand dans les séries, à chaque fois, c'est pas les clichés des dieux grecs, des actrices de cinéma. Moi j'aime bien quand ça change un peu.
Ça reste en revanche.
Est-ce que c'est réaliste?
Ils sont
beaux, ouais.
Donc voilà.
Les Italiens, LGBT, ouais, ils sont forcément beaux.
Les Italiens prennent soin d'eux. Voilà, on va pas se mentir.
Oh, les
ça
clichés.
Se voit. Voilà. Oui, c'est vrai. Ils sont plutôt beaux. Et du coup, donc tout le monde. Donc c'est comme une famille en fait, voilà, ils sont forgés au fil du temps. Ouais. Chacun a son petit appartement, ils se rejoignent sur le rooftop, ils font des dîners, etc. C'est assez
La belle vie.
Voilà,
la dolce vita.
Et ils habitent dans un quartier assez populaire de Rome. Et Massimo, du coup, avec Antonia, vit lui à l'inverse dans un quartier plutôt CSP+. Voilà. Ils ont un accès sur.
C'est le bourgeois qui tombe amoureux de l'artiste.
Exactement.
Voilà. C'est le bourgeois bien rangé dans son quartier banlieue.
C'est des pauvres.
Non, c'est des bobos. Des la vie de bohème.
Ah oui, d'accord.
La dolce vita.
Voilà, qui à l'inverse a une énorme maison avec une piscine. Non, pas de chien. Avec un accès sur le fleuve, le Tibre, c'est ça, qui traverse Rome, je crois.
Ok.
Voilà, un accès vraiment sur le. Voilà,
trop stylé.
Donc, très, très, très belle maison, etc. Et du coup, ils tombent amoureux. Donc, évidemment, ils cachent tout ça à Antonia.
Ils ont des enfants?
Non. Ah. Michele n'est pas au courant donc, que Massimo est marié. Et dès le premier épisode. Il se trouve que le soir où il allait tout annoncer à sa femme, il a un accident de moto, il se fait renverser par une voiture, il meurt.
Mais voilà. Attends, c'est horrible.
Voilà.
Ça c'est le début donc. Ok.
Dès le premier épisode, voilà. Donc le contexte est posé. Donc c'est une série qui aborde au-delà d'aborder l'homosexualité, ça aborde aussi le deuil du coup.
Oui.
Et il se trouve que attendez, ça s'arrange un peu.
Il revit.
Et donc. Et donc en fait toute la série c'est Antonia qui va découvrir petit à petit que son mari avait une autre vie en fait et va se rapprocher de Michele, ils vont se rapprocher un peu même pendant dans le deuil en fait, voilà, mais c'est je vous en dis pas plus, c'est bien fait, et ils découvrent aussi que Bah, son mari, elle découvre qu'il avait une vie, mais à milieu de leur vie, à tous les deux, bien rangée, etc. Avec des personnages haut en couleur, vraiment. Et c'est... Voilà.
Mais ils étaient ensemble depuis combien de temps ?
À 15 ans. Le mariage, le couple hétéro. Ah non, ils avaient leur relation cachée depuis une bonne année, quand même. Donc, voilà.
Je suis très hype, j'ai très envie de...
Bah, c'est difficile, ouais, quand elle découvre... En plus, son mari meurt, voilà, c'est la DEP. Et en plus, elle découvre qu'il l'a trompé depuis plus d'un an, ouais, c'est difficile, c'est difficile.
Ouais, mais j'ai pas l'impression...
En plus,
je peux même pas lui en vouloir, le mec est dead.
Voilà, et dans l'histoire, il y a... Donc, il y a sa mère, c'est une personne... En plus, c'est une personne qui est plutôt assez solitaire, elle a sa... Je sais pas comment on peut dire, sa domestique, entre guillemets, c'est un peu sa meilleure amie, quoi. Voilà. Ouch. Et sa mère qui passe souvent
employée
à la maison,
maison
et qui employée de maison, excusez-moi. Et sa mère qui passe souvent à la maison, qui est plutôt pénible. Voilà, on va pas se mentir.
Donc ouais, une vie pas ouf quand même.
Voilà, voilà. Mmh. Et à côté de ça, bon, elle travaille, elle est infirmière, voilà, elle est infirmière, je pense. C'est pas non plus. Donc elle voit des malheurs un peu tous les jours.
Mmh.
Donc voilà.
Et donc ça aussi, c'est dispo sur Disney+.
Exactement.
Ça donne trop envie.
Ça donne vraiment
drama.
Dès le premier épisode, genre.
Ouais.
Bah après, ce qui est dedans. Intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un personnage principal qui est LGBT. Ouais. Mais je me demande, ça pourrait très bien. Enfin, c'est pas forcément. Est-ce que c'est très important que ça soit LGBT, qu'il soit LGBT ou pas? Parce que
c'est une histoire d'amour.
Somme toute, c'est une histoire bouleversante et dramatique, mais la partie LGBT là-dedans.
Alors la partie LGBT, elle est vraiment représentée par Michele, qui lui du coup est gay.
Ouais.
Assumé, et dans son groupe d'amis, donc il y a un couple de lesbiennes.
D'accord. C'est là où on va voir plutôt l'aspect.
Ouais, voilà.
D'accord. Okay.
Donc son comptable et son expert financier sont gays. Tu vois, vraiment c'est.
Ok.
Voilà. C'est coloré, on va dire.
Trop bien. Ok.
Voilà. La concierge de l'immeuble. La concierge de l'immeuble, elle est aussi, on sait pas trop.
Comme elle a les cheveux tendres.
Non, mais elle a.
Elle est sûrement de la maison.
Voilà. Mais ils sont tous. Ils sont tous. Voilà. Ou en absence de genre, ou alors pas hétéro, en fait.
Ouais.
Ils vivent
tous dans le chat. C'est quoi vos critères déterminants pour savoir ou est-ce que vous avez un bon guédard?
Est-ce que vous avez un bon guédard dans le chat?
Est-ce
moi,
que
je
vous
dis le Gwendard aussi.
Gwendard.
Mais c'est pas facile à dire.
Ouais, c'est difficile. C'est plus facile à écrire, je pense.
En plus, moi, je suis nulle.
Est-ce que tu... On a combien de séries, là?
Mais il en reste une.
C'est un...
Voilà. Il en reste une. Et c'est voilà. Du coup, c'est Ignorant Angel.
Ignorant.
Ignorant.
Sinon, dites-le avec l'accent italien. Ignorante.
Ignorante. En italien, c'est La Fata Ignorante.
Ah, c'est joli
et
comme ça.
Et du coup, c'est La Fée Ignorante. Et la fée ignorante, c'est Michele, parce qu'il ignorait que son amour
était joli.
Marié, etc.
Attends, mais Michele aussi savait pas que le doute qu'il voyait depuis... Pardon, il est mort, hein, mais le salaud.
Ouais, c'est vraiment quelqu'un...
Personne mérite, mais quand même, le salaud.
Ouverte, je sais pas.
Pardon
Michele croyait qu'il était le seul, ou il croyait que son mec était juste genre, en relation ouverte?
Ah non, il croyait qu'il était le seul.
C'est horrible en vrai, fils de chien.
Il l'avait présenté, il venait régulièrement. Et les autres commencent à lui mettre la puce à l'oreille, parce que tu sais, donc il venait dans cette colo formidable, donc il connaissait tout le monde. Il vivait avec eux plus ou moins depuis un an, il venait, il passait plusieurs fois par semaine, ouais. Mais les autres commençaient à avoir la puce à l'oreille en disant « Ouais, il passe rarement la nuit avec toi. »
C'est bizarre quand même. Matinée, il y a une photo d'une fille dans son porte-monnaie, c'est quand même bizarre. Je
crois. C'est sa sœur.
C'est sa sœur. C'est sa maman, très proche.
Il met quand même sa langue dans sa bouche, non?
Oui, mais tu sais, ils viennent du Nord. Bon, alors, voilà. Ensuite.
Et le dernier n'est pas une série.
Et ouais, je vois ça.
Voilà, n'est pas une série.
Regardez le chat.
Voilà, c'est en fait un court-métrage qui s'appelle « Out ». Et je l'ai bien fait là, Anthony?
Non, il n'y avait pas de H, c'est out.
Out.
Et bon, pas non, out.
Écoutez.
Tu dis à la française, out, voilà.
Voilà. Le French accent, il est réputé comme sexy, non, dans le monde.
Ouais, très sexy.
Oui, baguette.
Le baguette.
Je peux me venger.
Pardon. Et donc, out qui a été fait par les studios Pixar et qui est un petit court-métrage vraiment adorable. Enfin, ça se regarde pareil, ça dure 10 minutes environ, 13 minutes avec le générique. Enfin, vraiment, ça se. C'est un petit bonbon aussi. Donc, petit résumé. Le héros Greg n'ose pas présenter l'homme avec qui il vit à ses parents. Parce qu'il a peur d'être rejeté, etc. Mmh. Ses parents, il n'a pas assumé encore auprès de ses parents qu'il était homosexuel. Et il va se passer un petit phénomène magique. Voilà, qui fait... Donc, je ne sais pas, la fée des... des LGBTQIA+, qui se trouvent être un chien et un chat d'ailleurs,
okay.
qui arrivent dans un arc-en-ciel.
Ah oh, non, j'adore.
Voilà.
Non,
j'adore.
Kitschouille.
J'adore.
Mais voilà, c'est un peu kitschouille, mais voilà, on aime beaucoup. Et en fait, il va se rendre compte grâce à tout ça que voilà, il aurait pu faire confiance à ses parents plus tôt. Et d'un autre côté, ça aborde aussi parce que les parents, notamment sa mère, qui était très proche de lui quand il était plus jeune, mm-hmm. bah, elle sent que son fils se détache de lui, elle comprend
pas.
Et ça crée, voilà. Donc il y a aussi ce prisme de les relations enfants-parents qui ont du mal à avoir l'enfant se détacher finalement de
sans comprendre forcément pourquoi en plus.
Exactement. Voilà.
Oui, donc, parce que si ça se trouve, la daronne, elle va juste être là. Oui, et on mange quoi ce soir ? Tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ok, j'ai hâte de voir. Ça dure combien de temps ?
Ça, c'est un petit court-métrage qui dure 10 minutes, hein, environ. Vraiment. Vous pouvez le regarder.
Et vous êtes tous en pause-déj, là. Je sais très bien, vous êtes au tas, vous faites semblant de travailler. Après ce live, vous allez sur votre PC, 10 minutes, vous regardez Out, du coup, sur Disney+.
Oui.
Et ça dure 10 minutes. Vous faites ça avec votre pause-clope. Très intéressant. Vous allez en sortir plus intelligent, je pense. Et il y a écrit avec amour, humour et légèreté. Alors, si vous n'avez pas besoin de ça aujourd'hui, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Voilà.
Exactement. Donc voilà, ces trois séries-là sont disponibles sur Disney+. Au-delà de ça, vous avez aussi d'autres... vous avez des films hein, qui mettent en avant des personnages LGBTQIA+, comme La Favorite, qui ont réussi, qui est très très bien, qui est sorti il y a quelques années, qu'à l'époque j'avais vu au cinéma.
Oh, merveilleux, La Favorite.
Oui.
Incroyable.
T'as regardé ?
De Yorgos Lanthimos.
Oui, je l'ai vu. C'est zinzin comme film, c'est génial.
Absolument. Ça se passe...
C'est avec des lesbiennes.
Pour le coup, ouais.
Il y a Olivia Colman, Rachel Weisz, qui est incroyable, Emma Watson, c'est l'autre. Emma Stone, et vraiment, c'est genre, c'est historique, c'est un peu foutraque. Il y a Nicolas Hoult aussi qui joue dedans, qui jouait dans X-Men et dans plein d'autres
Skins.
Trucs. Skins, tout à fait.
A
donc,
man,
vraiment, La Favorite, c'est incroyable comme film.
Oui.
Merveilleux.
Si vous avez l'occasion de le voir, c'est aussi.
Mais c'est vraiment bizarre aussi.
Aussi, mais voilà, ça fait pas de mal d'avoir des trucs un peu qui ça te fait te questionner, etc. Et il y a un autre aussi, si vous voulez voir des films hein, mm-hmm. sur ce sujet-là, il y a aussi un film qui s'appelle Fire Island, dont je ne parle pas dans mon papier, mais dont vous trouverez un papier sur Mademoiselle qui est sorti la semaine dernière.
D'accord, trop bien. Voilà. Je vais partager tout ça dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, Sophie, est-ce que tu peux faire un petit récap genre, je sais pas si t'as le chat sous les yeux ou pas.
Non, j'ai pas le chat sous les yeux.
C'est pas grave. Bon,
je regarde sur leur
C'était possible d'écrire les titres de ce que des séries que tu viens de dire dans le chat pour qu'ils puissent facilement chercher.
Attends, je
tu veux que je tienne ton micro.
Ouais.
En tout cas, super intéressant cette chronique. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que c'est important effectivement de récapituler un petit peu les séries qu'on peut trouver avec des personnages LGBT. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le chat en tout cas. Merci beaucoup.
Mais juste voilà, on a souvent cette image un petit peu. Un petit peu très conservatrice de Disney.
Oui, c'est vrai que Disney a priori c'est.
Et là, ils prennent les devants un petit peu.
Très cool.
Disney Plus et ils ont une très belle collection de films, de séries, qui abordent le sujet et c'est pas cliché. C'est très sympa.
Aussi.
Ouais. C'est pas cliché, c'est très sympa et c'est important. Ils ont le monde culturel a enfin compris que ce n'est pas parce que les gens ne sont pas hétéros que les histoires ne sont pas moins intenses.
Ouais, avec le mec qui meurt là direct, qui trompait sa meuf,
c'est intense.
C'est intense, il trompait deux personnes en même temps, c'est formidable.
Massimo, j'ai pas mort, mais bravo.
Massimo, super, nickel. Bravo la moto surtout. Bref. Non, c'est vrai que Disney, a priori, on peut.
Pensez à mettre un casque. Pensez à mettre un casque quand. Comme quoi,
c'est le mec qui change d'avis.
Non, arrêtez de mentir à vos partenaires aussi. Mais c'est un autre problème.
Soyez honnête, LGBT ou non.
Sinon, il n'y a pas d'histoire en même temps. Qu'est-ce qu'on veut finalement hein bon.
Bah, très bien. Merci pour cette belle chronique, Sophie. Elle va vous noter les titres des séries qu'elle vous conseille sur la plateforme Disney Plus qui sont dispo maintenant. Vous avez le choix. Tu sais qu'on t'entend quand même, hein, même
pardon,
si je parle plus fort au
non,
cas
mais je t'écoute,
où.
Hein.
Tu peux faire de l'ASMR comme ça, je t'entendrai quand même. Les séries s'appellent, magnifique. En plus, il y en a pour tous les goûts, du coup, parce qu'il y a des formats différents qu'elle vous a donné. Il y a un court-métrage de 10 minutes, il y a des épisodes de 1 heure, il y a des épisodes de 30 minutes, donc en fonction de ce que vous préférez. Let's go. Prochain sujet, les amis. On change, pas attention. Qui veut aller au tableau?
Allez, je prends la main.
Allez, c'est parti.
Question pour un champion, pour ceux qui s'en souviennent.
Qui ont plus de 28 ans.
Même sans dire mon âge, je laisse des indices.
Tout le monde connaît ça. Ouais.
Et ben moi je vais vous parler de l'IVG. Je suis désolée, j'ai l'impression de radoter parce que je n'écris et je ne parle que de ça depuis 3-4 jours.
Mais là les personnes qui sont là avec nous n'ont pas encore parlé de ça avec d'autres.
Donc petit retour en arrière. Vendredi dernier, on était le 24 juin et en fin de journée en France et donc un peu plus tôt aux États-Unis, une grande nouvelle est tombée. La Cour suprême a révoqué un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade, qui est un arrêt qui avait été prononcé en 73, donc quand même un truc qui était installé depuis un certain temps. Et depuis plusieurs mois maintenant, donc il y a 9 juges à la Cour suprême. La Cour suprême, pour résumer de manière très grossière, la Cour suprême, c'est l'espèce de super instance aux États-Unis. Ça fait autorité. C'est à la fois le Conseil constitutionnel, c'est à la fois le Conseil d'État. C'est vraiment genre la Cour suprême décide d'un truc. Ça a des répercussions sur l'ensemble du pays. Et donc là, par exemple, en 73, la Cour suprême avait acté via cet arrêt la question de l'avortement et permettait justement, ça c'était pas une légalisation en tant que telle de l'avortement, mais ça permettait de garantir le droit à l'avortement dans les États. Et donc, depuis quelques mois déjà, la Cour suprême est composée de 9 juges. Donc c'est 9 personnes qui ont un parcours dans le droit exemplaire et qui donc voilà ont autorité dans ce domaine et qui vont statuer, examiner une question de droit. Et donc depuis plusieurs mois, ils étaient en train d'examiner une requête faite par l'État du Mississippi justement, qui demandait à revoir cet arrêt Roe versus Wade concernant l'avortement, pour justement revenir sur ce droit.
Je me permets de poser une question direct. Bien sûr. Qui c'est qui a demandé à revoir ?
Alors c'est l'État du Mississippi.
Et est-ce qu'on sait exactement qui ? C'est-à-dire que je vais brûler quelle maison ? Enfin, il faut juste me dire, donne-moi juste un indicatif, voilà, vite fait.
Oui, vas-y. Un indicatif.
Mais est-ce qu'on sait à peu près qui ou c'est vraiment juste...
Donne le blaze
à chacun. C'est un truc qui traînait
le nom de la personne. Que je peux te retrouver le nom de la...
Non, mais si c'est chiant, t'inquiète pas.
Voilà.
Dans le chat, vous savez sûrement... Allez-y, dites-moi. Bienvenue à Romain qui nous a rejoint.
Mais c'est une décision collective, non ? Quand l'État du Mississippi demande ça, c'est...
Alors je peux te retrouver le nom de l'arrêt, enfin le nom de l'affaire. En gros, c'est un dossier pour dire on n'est pas d'accord avec Roe versus Wade, est-ce qu'on peut réexaminer la constitutionnalité. En fait, c'est examiner la constitutionnalité de l'arrêt Roe versus Wade, c'est-à-dire il y a des trucs qui sont pas, on n'est pas trop d'accord avec ça.
Ouf.
Est-ce qu'on peut revoir le truc qui existe depuis 1973. Évidemment, c'était pas la première fois qu'il y avait une tentative de réexaminer Roe versus Wade. Pardon, je m'y perds. Donc réexamen, les 9 juges en discutent autour d'une table pendant des mois et des mois et des mois. Ils votent et à 5 voix contre 4, parce qu'évidemment ils sont 9, donc voilà, c'est vite tranché, 5 voix contre 4, basculement, révocation de la Roe versus Wade, qui fait que derrière, eh ben, en fait, le droit à l'avortement n'est plus garanti aux États-Unis et que chaque État, en fait, ça laisse la révocation de cet arrêt, ça veut dire on laisse à chaque État le choix de décider de la législation concernant le droit à l'avortement, en fait, tout simplement.
Parce que c'est légal ou illégal ?
Ça veut dire que si un État veut décider que c'est illégal, il peut. Il peut le faire sans problème. Et résultat, il y a eu plusieurs États qui sont directement engouffrés dans la brèche, qui avaient des lois qu'on appelle les trigger laws, qui s'appellent, en français, ça s'appelle une loi gâchette. C'est-à-dire qu'automatiquement, dès que la Cour suprême allait basculer, parce qu'il y avait des craintes depuis quand même un certain temps que Roe versus Wade soit révoqué, dès que la révocation allait passer, automatiquement, l'État pouvait faire basculer sa trigger law et dire « Ah, au fait, c'est bon, la Cour suprême a décidé, hop,
c'est
ça
illégal.
Y est, l'avortement n'est plus légal. » Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans l'État du Missouri, c'est ce qui s'est passé pour une petite dizaine d'États qui avaient mis en place ce qu'on appelle les trigger laws et qui, justement, permettaient de faire un basculement, pas automatique, mais on va dire, ce qui est, pour le Missouri, ça s'est fait littéralement dans l'heure, où, voilà, automatiquement, la loi justement, sur l'avortement... on décrète que désormais c'est illégal et que le peu de centres IVG qui restent dans tel ou tel état se retrouve complètement, complètement shut down.
Ah, y a Sensen dans le chat rapidement qui dit « Je pense que la plupart des Français connaissent mieux la Cour suprême que les institutions françaises pour la culture américaine. » C'est plus simple à comprendre aussi, non ? En gros, il y a
des... Je vais pas dire que c'est plus simple à comprendre parce que vraiment, c'est quand même des mécaniques très très complexes. Nous, on n'est pas dans un État comme les États-Unis où tu as un niveau fédéral et où justement les États peuvent être autonomes sur certaines décisions. Donc vraiment, on est sur d'autres, c'est d'autres plans. Mais c'est vrai que oui, globalement, les institutions, c'est des mécaniques pas forcément faciles à comprendre. Je sais pas si on comprend plus facilement le fonctionnement de la Cour suprême ici en France que notre conseil régional ou conseil départemental qui sont quand même pas toujours évident, mais voilà, techniquement c'est plus proche de nous, mais ça mériterait aussi peut-être plus de transparence. Ça, c'est un autre sujet.
J'ai l'impression que c'est incroyablement compliqué aux États-Unis, mais juste les gens regardent énormément de séries, de films qui se passent aux États-Unis.
Ah, ça peut aider, ouais.
Du coup,
ouais.
Ça forme une forme d'éducation. Ça forge, pardon, une forme d'éducation.
Bah, moi, j'ai regardé les 7 saisons de The Good Wife. J'ai l'impression de savoir quand est-ce que tu crées Objection, quoi. Tu vois, c'est sustained.
Oui.
Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en fonction de l'état, y a-t-il des différences en fonction des semaines d'avancement de la grossesse ? Alors ça, justement, on sait qu'il y avait une sérieuse menace sur l'arrêt Roe versus Wade, justement parce que plusieurs états, dont par exemple le Texas, avaient déjà fait passer des lois, ou étaient en train de le faire, justement pour restreindre le droit à l'avortement. C'est-à-dire que, oui, c'est toujours autorisé, mais par exemple, pas au-delà de 6 semaines de grossesse. Donc autant te dire que pour découvrir ta grossesse avant 6 semaines, bonjour. Donc en fait, c'est matériellement, c'est encore plus restreindre. Et il s'agit aussi de voir comment certains états aussi il y a des états où il y a par exemple un centre IVG pour tout un état. On parle pas de un état, c'est pas la région Bretagne par exemple. Un état, c'est l'équivalent de la France. Donc imaginez s'il y avait un centre IVG
j'avoue,
des avortements
comme
en
ça,
France. Enfin voilà, si on se place proportionnellement, on est quand même sur des situations qui déjà étaient dramatiques en matière d'accès à l'avortement. Et qui aujourd'hui, voilà, ça ouvre une brèche vraiment hyper préoccupante où certains États, et notamment les plus conservateurs, donc les États par exemple de ce qu'on appelle la Bible Belt, les États du sud des États-Unis, qui sont largement plus conservateurs, aussi plus religieux, et qui vont justement aller dans le sens de restreindre le droit à l'avortement. Et ce qui inquiète aussi beaucoup, on l'a souligné dans un article,
qui s'intitule Comment ?
Je crois que tu l'avais mis en avant tout à l'heure. Aux États-Unis, un juge de la Cour suprême appelle à s'en prendre à la contraception au droit LGBTQI+. C'est-à-dire que parmi ces 9 juges, il y en a notamment un qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Clarence Thomas, qui est un juge conservateur, et qui n'a pas du tout caché ses ambitions derrière justement la révocation de Roe versus Wade. C'est qu'il prévoit justement de revenir sur d'autres arrêts qui sont plus anciens. Enfin, même certains sont pas si anciens
que
ça,
parce
vous allez voir, il y en a qui sont... Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, finalement ? Pourquoi on ne pourrait pas revenir sur l'arrêt Griswold, donc l'arrêt Griswold qui garantit la question de la contraception, de l'accès à la contraception. L'arrêt Lawrence, qui, je crois, date des années 2000, donc c'est quand même très récent, qui, justement, aborde la question de la dépénalisation de l'homosexualité, parce qu'il y avait quand même des États qui, encore récemment, criminalisaient la pratique de la sodomie, par exemple. Donc, voilà, la pratique de la sodomie, on ne parle pas juste de la sodomie, en fait, on parle de relations entre hommes consentants, hein, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas justement de lois qui criminalisent certains délits. Non, on parle justement d'aller criminaliser les relations homosexuelles et qui souhaiterait aussi revenir sur l'arrêt Obergefell, donc qui est de 2015 et qui, lui, a permis l'ouverture du mariage pour tous aux États-Unis. Donc voilà, on est quand même sur une vibe très, très réactionnaire qui est en mode l'avortement. C'est le début, mais derrière, il est question de s'en prendre aux droits des femmes, aux droits des minorités LGBT. Et vraiment, là, ça devient plus. C'est plus de la science-fiction, c'est plus une dystopie lointaine. Là, ça va devenir très, très concret parce qu'en fait, la majorité conservatrice à la Cour suprême, elle est là pour longtemps. Donc ça veut dire que si on ouvre cette brèche justement,
il faut qu'il meure, c'est ça, pour
en fait, soit tu décides de te retirer, soit effectivement tu meurs et il y avait cette juge qui est un peu une figure féministe, Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et justement, il y avait qui était un peu une garante aussi justement des droits des femmes à la Cour suprême. Il y avait eu cette crainte justement que on savait qu'elle était très âgée, qu'elle était, voilà, il y a un moment où la vie n'est pas éternelle, hein, donc on était en mode Routy, peut-être que tu pourrais te retirer quand Obama est encore au pouvoir, comme ça tu te retires et il met à la place quelqu'un qui peut garantir un petit peu qu'on garde un peu la main sur une certaine ouverture sur la Cour suprême. Elle ne s'est pas retirée, elle est décédée pendant le mandat de Trump. Évidemment, Trump s'est empressé il n'a pas nommé qu'une seule juge, hein, il en a nommé d'autres, mais il a notamment nommé une juge qui s'appelle Amy Coney Barrett, qui, malgré le fait qu'elle est une femme extrêmement conservatrice, connue pour ses positions
à l'avortement. Ça veut rien dire.
Et on, voilà. Il y a des femmes qui se rappellent de dire que les femmes aussi sont partie prenante, certaines femmes sont partie prenante justement des atteintes aux droits des femmes, aux droits des minorités, et que être femme n'est pas une garantie ne serait-ce que d'ouverture d'esprit, mais juste les femmes aussi peuvent savoir se mettre du bon côté du bâton et savoir où sont leurs intérêts, notamment en termes de pouvoir, et de défendre des intérêts qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de l'autonomie et de la liberté des femmes.
Quand tu regardes les vidéos de... N'hésitez pas, hein, vous pouvez couper si vous avez un truc à dire ou quoi, n'hésitez pas. Quand tu vois les vidéos de toutes ces meufs qui sont en train de manifester avec joie et beaucoup d'applaudissements à l'annonce,
ouais,
de...
C'était terrible, ouais. Ces images de foule, de femmes qui sont parfois assez jeunes,
ouais,
jeunes, qui sont très très heureuses d'apprendre que, bon, en fait, l'avortement va être remis en cause dans plein d'états et que, bon, ça laisse assez songeur, mais oui, il y a encore... alors, malgré tout, il faut quand même... l'adhésion à l'avortement est quand même encore assez forte aux États-Unis, donc ça, il faut quand même le noter, malgré ce retour en arrière, hein, c'est décidé par 9 personnes dans la Cour suprême, donc voilà, c'est quand même assez paradoxal, mais mine de rien, oui, ce qu'on disait notamment hier avec Marie-Cécile Nave, donc, qui est spécialiste des États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mouvements réactionnaires qui sont très puissants, parce qu'ils ont... ils ont accès aux sphères politiques, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi, c'est ce qu'on appelle vraiment du lobbying à proprement parler, hein. C'est des gens qui sont capables de mener des campagnes, qui sont capables de mettre des sous, qui sont capables d'avoir accès aux médias, et c'est ça aussi qui joue, voilà, c'est ça aussi qui joue, c'est que c'est pas des gens qui collent des affichettes et qui ont des petits prospectus qui distribuent dans la rue, non, il y a des campagnes massives et il y a des stratégies politiques qui sont mises en place justement pour revenir sur le droit à l'avortement, en sachant que derrière, c'est pas juste l'avortement, c'est un projet de société. Un projet de société où on revient sur les libertés des femmes, où on va décider de choses qui concernent le corps des femmes et leur autonomie et leur liberté. Et ça, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est jamais... Et Marie-Cécile Nave l'a beaucoup martelé hier, et c'est vraiment... Il faut avoir ça en tête. C'est qu'il s'agit jamais que d'avortement, et il s'agit jamais que du corps des femmes. Ça veut dire que c'est un projet de société qui est en route, et ça, c'est très préoccupant.
Ouais, c'est juste une porte d'entrée.
Exactement, exactement.
Et effectivement, comme tu le disais, être une femme ne garantit en rien qu'on va avoir l'intérêt des femmes en tant que classe sociale à cœur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, il y a énormément, mais tu l'as très bien dit, Maëlle aussi, c'est qu'il y a plein de femmes qui savent se positionner du bon côté du bâton. Bah, là, on est en plein backlash, comme on dit, donc retour de bâton.
Bien sûr.
Et il y a beaucoup de femmes qui, obtiennent du pouvoir en montrant leur allégeance au patriarcat, en fait. Donc, c'était gardienne du patriarcat qui, en faisant ça, se mettent du côté des gens puissants pour obtenir encore plus de puissance, en fait.
Et en face aussi, il faut souligner aussi que ces restrictions au niveau du droit à l'avortement, qui est-ce qui va être impacté en premier lieu ? C'est les femmes les plus éloignées des cliniques, c'est les femmes les plus précaires, c'est les femmes qui sont pas ou mal informés sur leurs droits de manière générale. Donc effectivement, ça va être notamment les femmes racisées, les femmes pauvres, etc. Donc c'est aussi ça qui se joue. C'est pas juste un enjeu de genre, en fait, c'est aussi un enjeu de classe et de race. Et vraiment, il faut le garder en tête que les premières victimes de ça, ça va être les femmes qui sont déjà précaires à la base.
Dans le chat, Sensen qui dit Thomas, il attendait une majorité républicaine pour ouvrir les vannes conservatrices, il semblerait. Il voulait revenir sur la liberté de la presse aussi, mais ils ont renoncé. T'étais au courant, ça ? T'avais suivi ou pas ? Moi,
ouais, alors j'aurais du mal à en reparler parce que du coup, j'ai pas directement écrit dessus, mais oui, il y a eu cette volonté justement de revenir là-dessus, mais Clarence Thomas, justement, le juge dont on a parlé tout à l'heure, voilà, ils ont un petit peu... Ok, ça va être un peu sensible, donc ils sont pas allés jusque là, mais effectivement, il y avait des questions d'atteinte au droit de la presse qui étaient en jeu à peu près au même moment aussi, ouais.
Et ça peut être une forme de stratégie politique aussi que d'allumer plein de petits feux à droite à gauche pour que, en fait, on puisse se dire ah bah là on va se battre pour l'avortement, ah on menace aussi le droit de la presse, bah il faut aussi se concentrer là-dessus. Et en fait, c'est divisé pour mieux régner.
Ça fait
parce
moins
que
de soldats
pas...
pour chaque.
Ouais, voilà. Donc c'est hyper pratique politiquement que de lancer plein de menaces en même temps.
On a un très bon exemple en France où apparemment le gros problème en ce moment, ça va être l'islamo-gauchisme ou je sais pas quoi, et à côté, ils profitent pour faire.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
énormément de choses. On agite des choses, voilà. Et d'ailleurs, en parlant justement de ça, je vous renvoie, je vais le partager, mais j'ai interviewé Alex Mahoudeau qui a écrit La Panic Woke, qui est un livre très très bien fait, qui explique comment, comment on en vient justement à agiter tous ces mots, ces concepts de cancel culture, le politiquement correct, l'islamo-gauchisme, et que tout ça relève d'une stratégie politique en fait, justement, qui sert les milieux réactionnaires. Je vais vous le partager parce que vraiment c'est un livre qui est passionnant, et voilà, j'ai interviewé Alex Mahoudeau qui l'a écrit, et du coup c'est vraiment, ça aide à comprendre en fait il s'agit pas juste de comprendre ce que ça veut dire que le wokisme ou que l'islamo-gauchisme, en fait qu'est-ce que ça désigne. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de comprendre
pourquoi on en parle maintenant.
Qui veut qu'on en parle. Ouais. Voilà. Pourquoi on en parle. Pourquoi on en parle maintenant. Qui veut qu'on en parle. Pourquoi on insiste autant à nous rabâcher les oreilles de ces concepts-là. Et c'est bien. Ça aide à un peu décrypter et à sortir un peu de l'indignation permanente sur ces questions-là. Et c'est toujours. Merci beaucoup de l'avoir partagé. Je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre d'où sortent à chaque fois ces paniques morales qu'on nous sort, et justement arriver à s'en détacher pour pas être tout le temps dans la réaction à ces choses-là, en fait.
Ouais. Si vous avez envie d'avoir un petit récap de ce qu'on est en train de dire, vous avez des articles qui sont dispo. Suffit de les demander si vous voulez les relire au calme après le live, tout simplement. Ou les partager, par exemple.
Donc là, je viens de mettre dans le chat l'article dont Maëlle vient de parler,
beaucoup,
La Panic Woke d'Alex Mahoudeau. Il y a Vikas Coco dans le chat qui dit l'un des yeux qui est les plus conservateurs est noir, donc a priori pas le profil type du supporter de Trump, donc en effet ça veut rien dire. Et ouais clairement il faut arrêter collectivement de croire que appartenir à une communauté spécifique garantit de pas vouloir discriminer cette communauté spécifique, enfin ça veut rien dire.
Il y a énormément de personnes qui sont LGBT qui eux-mêmes ont des a priori, eux-mêmes sont contre le mariage pour tous, eux-mêmes ça va partout, hein, partout il y a des
mais c'est une intériorisation parfois, certaines
choses.
Oui,
mais complètement. Parfois, c'est souvent. Je vois une meuf qui est complètement anti-IVG, qui dit que la femme. Enfin, tous les clichés, tu vois, les meilleurs clichés. Je sais très bien que derrière, il y a un copain, il y a un mec, il y a un mari qui est là derrière et qui lui disent tout ça. Enfin, je sais qu'il y a un espèce de. Je cherche un mot. C'est pas
endoctrinement.
Non,
pardon, excusez-moi.
Je crois que c'est ça que je cherche comme mot. Je sais pas.
Oui, on te bassine, on te conditionne. De toute façon, c'est.
Tu me nais pas comme ça. Donc
c'est des personnes qui sont aussi victimes de ce qu'elles racontent. C'est du sexisme.
Tu te rends pas compte, tu sais. C'est le déni. Tu te rends pas compte que t'es comme ça.
Ça peut être le déni, effectivement, mais ça peut être aussi une ignorance volontaire. Enfin, je pense qu'il faut aussi nommer les personnes comme responsables de ce qu'elles font et ce qu'elles pensent.
Ah oui, on va les déresponsabiliser aussi.
Je pense que c'est pas de l'inconscience. Enfin, pas systématiquement en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que dans plein de cas de figure, elles le font consciemment parce qu'elles obtiennent des choses derrière, et que en fait, être une gardienne du patriarcat comme ça, dans les plus hautes sphères politiques, c'est aussi une performance pour obtenir encore plus de pouvoir.
Tu gagnes quelque chose.
Ouais, tu gagnes de la thune, du pouvoir, de l'influence et de la proximité avec des gens de pouvoir aussi. Et vous parliez de cette vidéo de femmes qui se réjouissent une fois que le droit à l'avortement n'a plus été garanti par la Cour suprême à travers bref, on en a parlé, la révocation de Roe versus Wade. C'est aussi une performance de classe quelque part, comme tu le disais, Maëlle, c'est qu'en fait c'est des femmes là qui sont pas, ces femmes là ne sont pas inquiètes pour leur propre besoin éventuel d'avoir recours à un avortement, parce qu'elles ont soit les moyens d'aller dans un autre état où c'est encore légal, soit
les moyens de faire chez elles, avoir un enfant à chaque rapport sexuel, et dans ces cas là c'est une liberté, c'est aussi leur liberté, hein,
c'est aussi leur droit
de vouloir avoir un enfant. Et de pouvoir assumer je sais pas combien de grossesses tout au long de ta vie, tu vois.
Ouais. Mais d'ailleurs il y a une autre stat qui m'a beaucoup marqué, peut-être que t'as le chiffre en tête, c'est le nombre d'avortements qui sont pratiqués aux États-Unis. En fait, je crois que c'est 70% ont lieu alors que la personne utilise une contraception.
Oui, c'est énorme, mais c'est même des chiffres qu'on a en France aussi. C'est
oui,
que l'avortement, complètement. C'est aussi arrêter de penser que l'avortement est le résultat de femmes qui n'ont pas de contraception, qui s'en foutent, qui savent pas prendre soin d'elles, etc. En fait, déjà d'une, combien même, j'ai envie de dire.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que, en fait, la contraception, c'est clairement contraignant aussi. Et que déjà ça repose sur les épaules des femmes, et que ça coûte de l'argent, que c'est pas infaillible déjà, qu'un oubli ça existe et que t'as pas besoin d'être shamé toute ta vie parce que t'as oublié ta pilule une fois, qu'une capote ça craque, que t'as eu d'autres soucis en tête que de penser à ta pilule, en fait ça arrive. Et puis oui, juste les contraceptions sont pas infaillibles, donc
moi je suis un bébé stérilé.
Que les mecs enlèvent leur capote des fois sans prévenir aussi.
Ça s'appelle le stealthing, c'est illégal.
Tout à fait, c'est bon de le rappeler. Mais voilà, je trouve que c'est bien de rappeler que de toute manière, oui, les personnes qui ont recours à l'avortement sont en grande majorité sous contraception, mais aussi que, bah, en fait, il n'y a pas à shamer les gens sur les raisons qui les amènent à l'avortement de toute manière, en fait, quand bien même elles seraient sous contraception ou pas, en fait.
Preach, et rappelons la base, en fait, c'est tu peux être toi personnellement contre, enfin, ne pas vouloir pratiquer d'IVG. Toi, personnellement, pour ton corps.
Ouais, mais ça concerne ton cul, en fait. Mais ça concerne toi, arrête de vouloir...
Pourquoi essayer d'empêcher les autres personnes de le faire, en fait? Genre, ça m'hallucine à chaque fois.
Mais ils mettent en avant souvent que l'avortement, c'est une contraception de confort. L'avortement de confort.
Ouais, ça, non, ça c'est vraiment dingue, ça aussi. Hein,
ils
putain,
ont l'impression qu'on fait ça par facilité. Un avortement n'est jamais facile, il faut le rappeler aussi.
Tu sais, genre, on dirait que tu vas
c'est un de leurs arguments.
Mais pourquoi est-ce que ça devrait être... Enfin, ça devrait être ni facile ni difficile. Enfin, ça regarde les personnes qui y ont recours et juste le rendre ça possible dans de bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'il faut rappeler, que tu fais très bien mal en plusieurs de tes papiers, donc allez-y, c'est dans le chat, c'est que... je sais pas ce que je voulais dire.
Sur l'accessibilité.
Oui, voilà, c'est qu'en fait, t'as beau rendre l'IVG illégal, il n'y a pas moins d'IVG, en fait. C'est juste qu'ils sont... Ces pratiques d'interruption volontaire de grossesse deviennent plus dangereuses, effectivement, parce qu'elles sont réalisées dans des mauvaises conditions. Sanitaires, sociales, ça va être pratiqué peut-être à la maison par des gens qui connaissent pas ce qu'elles font et tout, donc c'est hyper grave. Enfin, criminaliser l'IVG ne réduit pas le nombre d'IVG. Enfin, il y en aura toujours autant.
Ça fait juste augmenter les morts, en fait.
Voilà. Exactement. Du coup, c'est hyper dommageable, en fait, pour la société tout entière. Et ça concerne, oui, la société. C'est un enjeu de santé publique.
C'est pas un problème de meuf, en fait. C'est un enjeu de santé publique. Vraiment.
De pudeur de meuf ou quoi, de vouloir contrôler le corps des femmes. Enfin, c'est un enjeu de contrôle des femmes, d'une part, mais c'est aussi... gravissime, oui, comme tu disais, c'est un projet de société global, donc ouais.
Tu voulais lire le message qu'il y avait dans le chat, Maë, je crois que
de Vicas Coco.
Ouais.
Vu que dans certains états, c'était déjà très compliqué d'avorter, bah oui, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il y avait des avortements clandestins dans ces états? Si oui, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors, je pourrais me renseigner, hein, j'ai pas de chiffres là sous les yeux ni en tête, mais effectivement, c'est ce que tu as très bien dit, hein, les avortements clandestins, quoi qu'il arrive, mais on parle des États-Unis, on peut parler d'autres états où, je dirais même plus proche de nous, hein, la Pologne est revenue sur le droit à l'avortement récemment.
En Europe,
hein, c'est vraiment pas très loin. Donc, voilà, il y a aussi le fait que c'est des choses qui s'étendent et que il y a des retours en arrière possibles, en fait, toujours, et c'est ça qui est vraiment inquiétant avec cette question des États-Unis, mais aussi d'autres pays. Il y a aussi des pays qui progressent, hein. Il y a plusieurs pays en Amérique latine qui ont ouvert l'avortement récemment, donc tout n'est pas tout noir, mais c'est vrai que de toute manière, comme tu le disais très bien, t'as beau légiférer pour interdire l'avortement,
ça ne changera pas.
Il y a toujours des gens qui vont avorter. Voilà, mais juste, est-ce qu'on peut garantir des conditions sanitaires dignes, en fait, pour les gens qui veulent pas mener qui ne veulent pas mener une grossesse, parce que pour plein de raisons, en fait. Voilà.
Ouais, petit rogo culturel, peut-être à moitié hors sujet, mais je voulais vous recommander le film Les Noces Belles sur un avortement clandestin.
Magnifique.
Il est hyper beau et dur, ce film, sorti en 2008 avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et c'est réalisé par Sam Mendes. Voilà, Les Noces Rebelles.
Mathématicienne dans le chat qui dit il y en a, il y en aura toujours, on peut pas littéralement. On ne peut littéralement pas empêcher l'acte, mais les chiffres sont difficiles à voir puisque c'est clandestin. Il n'y a pas de suivi convenable possible. En gros, tout ce que. La raison qui est.
Ouais, t'as tout dit, mathématicienne.
La raison qui est. Ouais, mathématicienne, elle est toujours on point anyway. La vraie raison qu'eux utilisent, en tout cas, c'est la religion. On est d'accord là-dessus.
Oui, c'est la question de la protection de la vie de l'enfant. Tu vas dire, à partir du moment où tu dis c'est pour la protection de la vie, c'est pour la protection de l'enfant à naître, c'est ton argument joker, argument d'autorité de tu protèges la vie, tu peux être contre quelqu'un qui protège
c'est
la vie,
les droits
en fait.
De l'enfant.
Bon, derrière, après, ça légifère sur les armes, sur le droit de porter une arme, et d'aller shooter, faire des tueries de masse dans des écoles.
Mais ça se défend, ça, Maëlle. Voilà.
Évidemment, ça, c'est possible. La liberté de porter une arme, bien sûr, hein, ça prévaut sur beaucoup de choses. Bon, je parle des États-Unis, hein, vu qu'en France, on n'est pas à ce niveau de dinguerie au niveau du port d'armes. Mais oui, non, c'est des arguments qui placent la vie avant tout, mais c'est des arguments qui se basent sur du...
La vie que Dieu nous donne,
je pense que dans plein de cas de figure aussi, la religion est sortie en guise d'alibi pour autre chose derrière. Tu parlais de projet de société plus global, bah effectivement, c'est en fait on sort l'argument du slut shaming religieux et en fait c'est d'autres choses qui sont en jeu derrière.
Tu sais ce qui me fait le plus rire, c'est que la plupart des gens ils disent ah mais un embryon c'est un être vivant direct parce que ça a son propre ADN qui est pas celui de la personne qui porte le truc. C'est vivant et en gros ça grandit. Le problème, c'est que les tumeurs aussi, tu vois. Ça a son propre ADN, ça a des dents parfois, les tumeurs, tu vois. Du coup, on fait quoi ? Cet argument est débile et d'une débilité. Tu peux pas dire qu'un embryon est directement un humain, puisque les critères qui sont référés pour un embryon sont aussi faits pour les cancers ou les tumeurs.
Oui, parce qu'ils sont aussi capables de sortir des arguments de biologie.
Oui, mais qui sont tous réfutables. C'est-à-dire que tout est.
Mais voilà, si tu sors l'argument religieux, théologique de la présence de la vie et de l'immatériel de la vie, de l'âme aussi. Enfin, je veux dire, à quel moment tu mesures l'âme quand t'es un médecin qui pratique une IVG. Enfin, voilà, ça n'a pas vraiment de sens.
Dans tous les cas, encore une fois, la question, elle se pose pas. Enfin, j'ai envie de dire... Bon, c'est même pas un débat, je sais pas, dans nos têtes, c'est pas un...
C'est... Non, mais bien sûr. C'est juste que les arguments en face, ils tiennent juste à quelque chose. T'es pas sur le même niveau de réalité, en fait. Si moi, je considère que de toute manière... la religion n'a pas à intervenir dans ce débat et qu'une personne ne base que son argumentaire sur la religion.
Ça ne marche pas.
On parle même pas de la même réalité. Ma vie n'est pas dictée par des principes religieux et j'estime que des personnes peuvent baser leur vie sur des principes religieux.
Ouais,
c'est pas le problème.
Ça les concerne.
La loi, elle va s'appliquer à tout le monde en fait. Voilà.
Ouais, mais les États-Unis, en même temps, c'est hyper religieux.
C'est autre chose. Ouais. Enfin voilà.
Très bien. Vous avez quelque chose à le chat. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre encore un petit moment. N'hésitez pas s'il y a la moindre chose ou si vous voulez les articles peut-être qui concernent.
Ouais, bien sûr.
J'en avais pas mal en plus. On les
mais
a pas
oui,
tous
oui,
cités.
Mais je vais les partager parce qu'il y avait aussi cet article qu'on a publié hier justement.
Hier, ouais, tout à fait.
Concernant justement l'impact que pourrait avoir la révocation de cet arrêt. Je vais
en France
tout de suite. Est-ce que ça veut dire que en France, qu'on voit la facilité toute relative, mais quand même la possibilité qu'un pays comme les États-Unis revienne sur l'IVG, est-ce que ça veut dire que nous on est en danger aussi? Alors, ce qui est arrivé juste après cette annonce de la révocation de Roe versus Wade, c'est qu'il y a des politiques en France qui ont dit « Ah, ok, on va constitutionnaliser le droit à l'IVG, sanctuariser dans la Constitution, donc ça veut dire inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, qui est un peu le texte fondateur. Quand une valeur est dans la Constitution, ça veut dire qu'on n'y revient pas. Tu sais, le mettre au même niveau que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité dans notre pays, c'est dire « Voilà, le droit à l'IVG est dans la Constitution ». Basta.
Après la Constitution, ça se corrige. Hein. Ils ont enlevé le mot race récemment, mais bref, qu'importe.
Certes. Mais toujours là-dessus, on pourra toujours contester ou en tout cas critiquer certaines dispositions. Là, l'idée, c'est de protéger le droit à l'IVG. Alors, est-ce que ce qui est intéressant, c'est que c'était pas une idée qui est arrivée il y a quelques jours. Hein. Il y a des députés qui ont déjà essayé de faire entrer l'IVG dans la Constitution.
Ouais.
Et c'est même très récent, parce que c'était pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et la majorité présidentielle était en mode « Non, franchement, c'est pas utile, c'est pas nécessaire de le faire. » Bon, très bien, ça s'est pas fait. Et là, la majorité présidentielle en mode « Ah tiens, faisons-le, portons-le aussi », alors qu'à la base, c'était quand même, il y a quelques années, c'était porté par la gauche, donc c'est intéressant de voir qu'il y a des évolutions à ces niveaux-là. Mmh. Évidemment, il y a un peu de calcul politique là-dedans, on va pas se mentir, mais le fait est, c'est que voilà, ça pourrait être quelque chose qui soit sur la table dans peu de temps. Après, évidemment, ça se fait pas en quelques jours, hein. Il s'agit pas de dire... On peut pas rayer un truc et y ajouter autre chose. Hein. Y a quand même un processus qui doit en passer par là. Mais voilà, la question se pose derrière. Ok, c'est bien joli. Après, concrètement, si déjà aujourd'hui en France, il y a des difficultés pour certaines personnes à accéder à l'IVG, et si l'accès, si le droit à l'IVG est inscrit, sanctuarisé dans la Constitution, c'est très bien. Si dans les faits, il y a des centres IVG qui ferment, si dans les faits, il y a même des femmes doivent changer de département,
oui,
par exemple.
C'est pas parce que ça change pas, les changent pas.
Pour avoir accès à un centre IVG, si il y a encore des médecins qui mettent en valeur leur clause de conscience,
qui ne
respectent pas l'obligation de renvoyer vers un autre professionnel de santé pour pratiquer une IVG, et ben en fait, voilà, il y a plein de points qui sont pas remplis en fait. Il y a plein de critères qui font que le droit à l'IVG aujourd'hui en France, il est pas optimal. Mmh. Donc voilà, c'est un beau symbole et effectivement ça peut protéger le droit à l'IVG, ça éviterait un retour en arrière comme on le voit aux États-Unis. dans les faits, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, d'un point de vue d'information aussi, c'est des choses qu'on a dit pas mal hier, d'un point de vue d'information, voilà, on n'est pas, c'est pas parfait en France concernant l'IVG. Et ce serait bien justement que, qu'on avance aussi sur ce point.
Petite question dans le chat et je vais poser la même. Est-ce que vous pensez qu'un jour, genre, en France, ça va être, on va avoir la même chose qu'aux États-Unis, genre vraiment plus le droit à l'IVG, etc. Dans le chat, répondez-moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que non.
Je pense que non. Je pense que non. Je pense pas qu'on pourrait arriver à un retour en arrière aussi flagrant. Après,
mais tu pensais que l'extrême droite, elle allait faire 300% de plus de...
Certes. Je sais pas, on en reparle dans 30 ans. Le prochain, je dis tout dans 30 ans. Je pense pas. Par contre, il y a des choses qui sont peut-être plus pernicieuses, mais on en parlait hier. Par exemple, la question du déremboursement de l'IVG, c'est quelque chose que soutenait l'extrême droite il y a encore pas si longtemps. Là, ça louvoie un peu, ça fait un peu de non, on va rien faire contre l'IVG, etc. Sauf qu'on a quand même 89 députés RN qui sont arrivés, dont certains ont des positions sur l'IVG plus que réactionnaires. Donc voilà, on est en droit de s'inquiéter. Et le fait est, c'est que je pense pas qu'on puisse revenir de manière drastique sur l'IVG et vers une interdiction stricte. Mais par contre, des questions comme... Des restrictions qui sont d'ordre, par exemple, comme je disais, du déremboursement de l'IVG. Donc faire en sorte que, en fait, moins de femmes aient accès à l'IVG de facto, parce qu'en fait, quand tu peux pas te payer certains soins, tu vas pas te faire soigner, tout simplement. Ouais. Et ça pourrait être, par exemple, une restriction. Je peux imaginer que ça puisse arriver. Voilà. Mm-hmm. Je dis pas que ça va arriver, mais je pense que ça...
C'est pas improbable.
Je pense que ça se manifesterait de manière peut-être un peu plus indirect qu'une interdiction.
D'accord,
après,
okay.
Voilà, c'est mon... Voilà.
Ouais, mais que vaut un droit si on ne peut pas l'exercer, effectivement.
C'est vraiment la question de l'accessibilité à plein de niveaux.
Mais après, j'ai l'impression que... Enfin, c'est vraiment au doigt mouillé. Et c'est une hypothèse.
Doigt mouillé ?
Oui, c'est genre... Je me base pas sur des stats très précises.
Je connais pas cette expression, j'ai été très étonnée.
Mais que, en fait, le RN se fonde beaucoup aujourd'hui en France et est très incarné par des femmes... Et afin de fédérer notamment le vote des femmes, et que ça flirte beaucoup avec le fémonationalisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation à des fins électoralistes des intérêts des femmes, instrumentalisée par l'extrême droite, du coup, et notamment en faisant dire « Ah, regardez, ce sont des vilains noirs et des arabes qui agressent nos femmes, blanches, évidemment. Du coup, votez pour nous, le RN, comme ça, on va vous protéger vos femmes. »
T'as vachement bien résumé des mois de
campagne.
De campagne, hein, si je peux me permettre.
Les cinq derniers mandats.
4 secondes, 5, hein, vraiment.
Et du coup, ça, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une vague fémonationaliste hyper importante en France et en Europe, d'ailleurs. Mais peut-être plus importante qu'aux États-Unis, où en fait la droite était plutôt portée par Trump, qui est quelqu'un de éminemment misogyne, même s'il y a des femmes qui le soutiennent et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont voté pour lui aussi. Hein. Mais en France, j'ai l'impression que ça se joue moins, enfin on instrumentalise davantage la carte des droits des femmes. La droite aussi, l'extrême droite aussi instrumentalise la carte des droits des femmes en mode regardez, nous on est pour le progrès, on est trop antisexiste et tout machin.
Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que je pense que le droit à l'IVG est peut-être un peu moins menacé en tant que droit. Après, il y a d'autres manières de le voyer, comme tu le disais très bien, Maëlle, c'est en rendant l'accès beaucoup plus compliqué,
oui, en déremboursant.
Par
d'autres moyens, d'autres chemins, etc. Ouais.
Voilà. Mais la sécurité sociale est assez bien faite en France aussi, donc j'ai le pressentiment que c'est pas si facile de.
Ouais.
De s'attaquer au droit à l'IVG, mais effectivement, l'accès, ça, c'est un autre...
Pardon, faut que je baille. Excuse-moi, j'ai pas dormi. Non,
trop
parlé
du RN, c'est pour ça.
Ouais, non, mais alors, par contre, on dit pas extrême droite, on dirait... Non, pardon. Franchement, je dirais que c'est possible si l'influence du RN s'étend. D'un point de vue global, les droits progressent. Malheureusement, il y a des événements ponctuels. On voit bien qu'ils régressent et c'est important de pointer du doigt ces événements. L'un des gros problèmes avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est toutes les répercussions que ça va avoir, sachant l'influence des US, que les US sont dans le monde. En tout cas, je suis prête à me battre pour que ça continue à avancer dans le bon sens.
Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cependant, moi, je pense que c'est très possible que ça arrive en France plutôt qu'on ne le croit.
Ouais.
Déjà par l'influence qu'ont les États-Unis sur la France.
Comme le dit Mathias, ouais.
Ouais, et que oui, on a de plus en plus de personnes qui votent extrême droite. Parce que. Et
on
l'extrême droite. Pardon.
Non, mais je rigole. Okay. L'extrême droite, ouais, bien les droitards, là, bien c'est bon.
Voilà, on a de plus en plus de personnes qui votent vers les extrêmes et qui. Et les extrêmes, c'est un de leurs chevals de bataille.
Ouais,
donc je pense que. Et je pense que si un jour. Je croise les doigts. L'extrême droite passe au pouvoir. Ça va être un des premiers trucs parce que ça va être une victoire pour eux, qui vont supprimer quoi.
Enfin, non, mais le prochain mandat, du coup, c'est Marine Le Pen qui se présente à l'extrême droite, non ?
Oui, oui, non, mais alors je dis pas que ça va arriver voilà, demain, mais je pense d'ici 2030, moi ça m'inquiète un peu. Voilà. Voilà.
Je vous préviens, si j'en ai partout, c'est normal.
Je pense, parce que c'est. Ouais, c'est représentatif comme droit, donc je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si jamais.
Ça veut dire quoi, c'est représentatif comme droit ? Désolée pour la SMR pipi, je suis navrée.
Si on entend, tu crois ?
Oui.
Bah, le droit à l'IVG, c'est pour moi, c'est un symbole. C'est ça que je veux dire.
On a sauté. Il y a une caméra qui a sauté.
Il y a une caméra qui a sauté, mais c'est parce que...
All eyes on Shakam.
Bah, Miss Kina, y a Inès qui dit ça. C'est pas grave, je vais regarder, je vais vérifier ça.
Tu veux qu'il y ait ton micro ?
Ouais, bah, tu peux pas. Vous pouvez continuer à parler un peu.
Du coup, je peux essayer de faire de l'ASMR avec deux micros à la fois et vous ne voyez rien.
Ok. Oh well. Oh, mais on n'est pas inquiet, hein.
Non, j'étais en train de dire que... Non, j'étais en train de dire que le droit à l'IVG, c'était un symbole et que je pense que c'est un des premiers trucs qui va sauter si le RN continue à gagner des places à l'Assemblée ou... voilà. Voilà. Pas de soucis.
On est revenu.
Ah bah, fallait juste que j'en ai vu.
Ok, magnifique. Welcome back.
Donc,
à nous-mêmes. Ah oui, pardon.
Je ne pense pas qu'en France, on aura un tel retour en arrière. Et dans le cas où ça arriverait, j'imagine que ça ne durera pas longtemps. Mais franchement, moi, je n'ai pas envie de me dire que ça ne peut pas jamais arriver parce qu'on va l'avoir
dans le cul.
Non,
on ne dit pas jamais, mais...
Non, mais il faut rester vigilant, bien sûr. Hein.
Moi, je pense qu'il faut rester...
J'ai l'impression qu'il y a, davantage de garde-fous...
Ouais.
Bah, je suis en France. Franchement, je suis... Là, on est dans notre microcosme à Paris, etc. Mais je pense que dès que tu sors... Enfin, moi, je le vois quand je vais dans... d'autres parties de la France, c'est pas du tout, ils sont pas du tout alignés sur notre vision des choses. Hein. Donc moi, ça m'étonnerait pas que d'ici 2030,
ouais.
Voilà, ça sera remis
en place. Et 2030, c'est bientôt. Hein.
Ouais.
Je pense vraiment 8 ans. Bon, j'ai pas envie de penser aux âges qu'on aura à ce moment-là. Ok, bah écoute, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques sur lesquelles vous voulez revenir dans le chat, on n'hésite surtout pas. On va passer au dernier sujet du coup du jour. Qui est pas forcément d'autant plus joyeux, mais enfin, quand même, pour nous, ça l'est. On va parler R. Kelly, du coup, avec toi, Anthony.
Oui, mais ça va être assez bref, parce que, y a pas grand chose à dire. En réalité, c'est une affaire qui traîne depuis si longtemps.
Tu sais qu'on trouve toujours des choses à dire, Anthony.
Exact.
Surtout toi, si je peux me permettre. Surtout toi.
Je parle trop, c'est ça. je vais être bref, du coup. C'est, en fait, donc, R. Kelly, de son vrai nom, Robert Kelly, c'est un producteur, chanteur, auteur, compositeur, interprète de musique depuis,
I Believe I Can Fly.
Les années 90.
C'est ça.
Ouais, okay, il a chanté notamment un tube qui s'appelle I Believe I Can Fly. C'est aussi un producteur qui a notamment contribué au lancement de Aaliyah, qui était une chanteuse de R&B génialissime, qui est partie beaucoup trop tôt. Voilà, et en fait, ça fait des années et des années, au moins deux décennies, que des rumeurs, des personnes accusent R. Kelly de commettre des violences sexuelles, voire de s'adonner à un trafic d'êtres humains, un trafic sexuel, de l'exploitation sexuelle. Et plusieurs personnes ont porté plainte, sauf qu'en fait, R. Kelly s'attaquait principalement à des femmes noires et des femmes latinas, qui sont des femmes qui ont des difficultés sociales à exprimer et faire valoir leurs droits, en fait, à se défendre, à obtenir justice. Et c'est des femmes qui sont peu crues aux États-Unis. Donc R. Kelly, je vais le préciser, donc ça, tout ça se passe aux États-Unis. Depuis les années 90, du coup. Et,
depuis les années 90.
Et voilà. Et donc, en gros, ça fait plusieurs années que des femmes essayent d'obtenir justice sans forcément être crues ou en tout cas obtenir justice. Et là, ça a commencé à se décoincer dans le sillage de MeToo. En septembre 2021, donc il y a un procès qui s'est ouvert il y a des années. Et en 2021, une première condamnation est tombée. Robert Sylvester Kelly a été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'extorsion, d'exploitation sexuelle de mineurs, d'enlèvement, de trafic, de corruption et de travail forcé. Wow. De 1994 à 2018.
À 2018 ?
C'est 24 années. Et ça, c'est ce qui a été condamné. Il y a
mais c'est
énormément
vachement récent, 2018 en plus.
Oui, oui, parce qu'en fait, ça fait des années que ça dure et que le mec continuait à s'adonner à ce trafic d'êtres humains, y compris sexuel.
Ouais, quand bien même il y avait...
Quand bien même il y avait des accusations contre lui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui continuent à le soutenir, malgré tout. Et aussi, comme les victimes étaient des femmes racisées, eh ben, personne ne les écoutait, en fait, parce que c'est des personnes qui sont peu crues socialement,
oui,
qui
bah
sont
oui, oui.
Terriblement invisibilisées.
Et il savait très bien lui-même, c'est pour ça que...
Oui, oui, ça fait partie des arguments des plaignantes que de dire en fait on a été ignoré toutes ces années et c'est hyper grave et les États-Unis ont une part de responsabilité dans le fait que ce prédateur sexuel notoire ait pu continuer à perpétuer ces violences pendant des années. Et donc cette condamnation...
Il y avait des enfants, une question du chat.
Oui, il y avait des enfants, il y avait plusieurs personnes mineures. Donc en fait, c'est... il y a assez peu de... enfin, il y a énormément de personnes qui ont parlé. Il y a peu de personnes qui ont pu genre, déposer plainte en bonne et due forme parce qu'en fait, ça nécessite beaucoup de... bah, de temps, d'énergie, d'argent aussi. L'exercice de la justice aux États-Unis, en France aussi, autrement, mais c'est un autre cas de figure. Et du coup, tout ça, ça fait qu'il y a plein de gens qui... voulaient parler, qui ont été victimes, ça c'est sûr, qui vous ont potentiellement voulu porter plainte et tout, mais n'ont pas forcément pu le faire, notamment des enfants. Et il y a aussi des gens pour qui, en fait, les actes condamnables étaient prescrits. Prescrits, oui.
Proscrits.
Excusez-moi, prescrits. Oui, il y a prescription. Ouais. Proscrit, ça veut dire que c'est interdit.
Excusez-moi. Une fois, pas deux. Hein.
Non, j'ai envie de revenir une troisième fois, soyez sympa.
Mon dad d'art, Sophie. Dites-le dans le chat si vous adorez Sophie. Sinon, dites-le de ne plus jamais revenir et vous serez exaucé.
Évitez quand même.
Et donc, voilà. Donc, à New York, il est reconnu coupable. Et le temps qu'on exprime l'ampleur de la condamnation, ça demande des mois supplémentaires. Et là, ça vient de tomber. Donc, le 29 juin 2022, à New York également, R. Kelly, il a été condamné à 30 ans de prison par le tribunal fédéral de Brooklyn. Donc voilà, c'est des mois, des années d'enquête, notamment de la part d'énormément de journalistes qui ont enquêté pour écouter des victimes qui n'ont pas forcément pu obtenir justice par les voies classiques du dépôt de plainte, etc. C'est aussi des communautés qui ont des rapports compliqués avec la police, à cause de la police, parce que...
Ouais, c'est quoi les
parce que, voilà, en fait, c'est genre... Il y a plein de biais racistes qui travaillent la justice et la police aux États-Unis, mais pas que. Vive l'Occident.
Mais quand bien même, malgré tout ça, il y a eu quand même...
Voilà, quand bien même, R. Kelly, après des années de rumeurs, d'accusations et tout, il a été condamné à 30 ans de prison pour ses crimes sexuels. Donc voilà, ce qui a été assez souligné par plusieurs médias, c'est à quel point en fait, R. Kelly est resté silencieux pendant ces mois, entre le moment où il a été reconnu coupable en septembre 2021 et aujourd'hui où il y a eu la condamnation, le mec ne disait plus rien. Genre, il assistait au tribunal, il était là, assis, il ne parlait plus et tout. Et son avocate disait, bah, on va faire appel et tout. Et le mec ne répondait pas. Et donc, la juge a exprimé à plusieurs reprises à quel point il était silencieux et insensible à la souffrance humaine.
Oui, et là, tu dis, glaçant, le chanteur n'a prononcé aucun mot pendant tout le verdict, le condamnant à 30 ans de prison. Mais son avocate a apprécié qu'il comptait bien faire appel. Et juste avant, l'accusé présentait une indifférence à la souffrance humaine.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait...
ouf à dire sur une personne, ça, on est d'accord.
Effectivement,
ça,
pas... et on va pas faire...
Ouais.
C'est... En fait, c'est... on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais ça peut être un trait de sociopathie, voilà, qui est un trouble de la personnalité.
Pourquoi on ferait pas de la sociologie de comptoir, juste... on s'en fout.
J'ai dit sociologie je voulais dire psychologie.
Je voulais dire psychologie.
Ouais, mais on s'en fout. On peut... Tu dis ça, c'est un signe.
En tout cas, c'est un signe potentiel de sociopathie ou de psychopathie. Mm-hmm. Le manque total d'empathie, comme ça. Et R. Kelly, en tant qu'artiste... Donc, ok, là, je suis les deux pieds dans la psychologie de comptoir. Mais en fait, pour devenir artiste de cette ampleur-là, en fait, ouais, il faut un peu de mégalomanie.
Oui, bah oui.
Ça nécessite d'avoir beaucoup, beaucoup d'ego. Et en fait, ce désir d'ego énorme et tout, et arriver à ce stade de notoriété-là, ça alimente cette bien mégalomanie, sûr, potentiellement. Et du coup, bah, en fait, ça ressemble beaucoup à la triade de la personnalité noire, c'est quand tu cumules narcissisme, psychopathie et sociopathie. Mais bref, c'est un autre sujet, parce que ça, en fait, l'expertise clinique, souvent, c'est utilisé dans les processus judiciaires pour déresponsabiliser les gens, en fait. Donc, j'ai pas envie d'argumenter trop là-dessus. Parce que, en fait, commencer à dire il a des troubles de la personnalité, c'est dire ah, mais il est peut-être malade et du coup, c'est pas de sa faute. Mais en fait,
là, c'est pas...
déjà, on peut avoir des troubles de la personnalité et être coupable, responsable de certaines choses, soit dit en passant. Et ensuite, qu'importe, il est coupable des crimes qu'il a commis.
C'est quand même un petit schéma. C'est-à-dire qu'on parle pas d'une victime. Hein. Il y a quand même des dizaines,
oui, non,
et des,
non,
dizaines
et des enfants et des femmes.
De témoignages. Ouais, ça s'étale sur des années. Il y a aussi tout un.
Il y a énormément.
Il y a un système qui l'a protégé aussi. C'est-à-dire, enfin, je vois que tu le mentionnes dans l'article. Il y avait un documentaire Netflix. Moi, j'avais commencé à le regarder et j'avais un peu lâché parce que c'est faut être assez solide pour le voir. Je le recommande malgré tout, hein, mais voilà, c'est qui s'appelle un docu qui s'appelle Surviving R. Kelly, donc survivre à R. Kelly, hein, c'est ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que il y a les témoignages des victimes, il y a aussi les témoignages de l'entourage qui montrent aussi que en fait il y a un moment aussi quand t'es une star et que t'as atteint un tel niveau de notoriété et que t'engranges tellement de thunes et que t'as tellement un système autour de toi que en fait tu peux tout te permettre.
Bien sûr.
Et que quand bien même des gens sont au courant, quand bien même des gens voient que tu sollicites des gamines vulnérables pour venir avec toi dans ta chambre d'hôtel ou dans ton tourbus et qu'on fait on sait pas trop quoi mais quand même on a une petite idée assez précise mais qu'on va rien dire, c'est qu'il y a un système aussi qui permet à ce type d'avoir fait ça pendant des années, en étant tranquille. Et je pense qu'il y a aussi cette idée que il a pu dormir sur ses deux oreilles parce que bah en fait il y avait pas de raison qu'on l'arrête aussi quoi.
Oui, effectivement, comme tu le dis, Mel, et comme je l'ai écrit dans l'article, c'est que il y a tout un système de complicité de la part de son entourage personnel, mais aussi professionnel, parce qu'en fait, pour mettre en place le trafic d'êtres humains, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il sélectionnait parmi son public des femmes qui avaient l'air plutôt isolées, plutôt précaires, pour leur soit lui-même, soit auprès de ses managers ou ses gardes du corps, en fait, aller les voir, leur dire « Ah, coucou, R. Kelly t'a repéré, il t'aime bien et tout ». Et en fait, on leur glisse un papier avec le numéro du chanteur pour se retrouver après le concert et faire ce qu'il y a à faire, soi-disant. Et en fait, souvent, il les droguait de force, parfois. Parfois, il s'adonnait à des sévices sexuels à leur encontre en leur faisant signer des NDA, donc des clauses de non-divulgation. C'est ce qu'on fait signer aux États-Unis pour dire t'as pas le droit de parler de ce qui s'est passé en échange d'un gros chèque. Et parfois, en fait, il déplaçait ces femmes qui étaient souvent mineures. Il les isolait de leur famille et il les mettait dans une forme de prison. En fait, il avait tout un édifice, tout un bâtiment consacré à l'exploitation sexuelle de ses victimes, en fait, avec du personnel aussi pour s'occuper de ces gens-là, en fait. Et du coup, il leur faisait faire des actes sexuels extrêmement dégradants, souvent filmés. Et comme c'est des mineurs, c'est de la pédopornographie. Il a été aussi reconnu coupable de pédopornographie. C'est important de le souligner. Et donc, ce prédateur sexuel se servait aussi de ce matériel pédopornographique pour faire chanter ses victimes et la famille des victimes, qui payait aussi parfois d'ailleurs pour que ces familles de victimes se taisent ou arrêtent de chercher.
Ouais.
Et donc, c'est tout un système où il y a des gardes du corps, des managers et qui
l'aident.
Oui, non,
mais là, clairement, c'est pas du tout caché. Il y a 3 milliards de personnes qui sont impliquées là-dedans aussi.
Ouais, non, mais c'est systémique en fait. La mise en place de violences sexuelles de manière systémique, c'est tout un système qui fonctionne, qui s'auto-entretient, qui s'auto-protège, s'auto-immunise. C'est extrêmement complexe.
Aussi avec Epstein. Enfin, voilà, c'est vraiment un réseau, systèmes qui sont faits. C'est pas une agression comme ça au hasard, random en fait. C'est vraiment des. Tout est mis en place, c'est des systèmes mis en place pour exploiter.
On a eu un exemple plus récemment en France aussi,
ouais,
avec la personne d'Assu 2000, dont j'ai oublié le nom.
Son nom
m'échappe.
Qui ?
Un vieux mec dégueulasse.
Un chef d'entreprise très très haut placé qui a l'entreprise Assu 2000.
Mais pour en revenir, on va vous retrouver l'information sur le mec d'Assu 2000. C'est donc il s'appelle Jacques Boutier. Je vais vous envoyer l'article qu'on a écrit.
J'adore parce que dans le chat, il y a des gens qui demandent des noms, mais du coup, ça révèle bien que.
Mais Jeffrey Epstein, que tu mentionnais, Maëlle, c'est un mec richissime qui fonctionnait notamment sur le fait qu'il était très proche de la société Victoria's Secret, en fait, la marque de lingerie. Et c'est dire à quel point c'est systémique, c'est qu'en fait, il se servait dans cette marque et des gens qui aspiraient à travailler pour cette marque pour recruter des femmes, souvent mineures, et s'en servir pour un trafic d'êtres humains, un trafic sexuel. C'est pour ça que je parle souvent, d'ailleurs, dans Je dis tout, de mannequinat, c'est qu'en fait, le mannequinat, c'est horrible. Enfin, c'est à la frontière souvent de trafic sexuel. C'est une manne de jeunes filles, souvent précaires, souvent isolées, qui parlent pas forcément la langue du pays où elles travaillent, terminent dans des trafics d'êtres humains, quoi. Et du coup, il y a des agences comme Jeffrey Epstein se servait dans des femmes qui voulaient devenir mannequins et il les donnait à des richissimes mecs qui voulaient se taper des mineurs, quoi.
Est-ce que les personnes de ce réseau dont on parle autour de R. Kelly, ils seront aussi condamnées ou pas ?
Avec la complicité de sa femme, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, son ex-épouse, pardon, qui vient d'être condamnée à son tour. Excuse-moi, j'ai oublié ta question.
Est-ce que les personnes...
Il y a juste qui vient de se passer, quand même ?
Oui.
C'est formidable.
J'avoue. C'est du grand Anthony, ça.
Qu'est-ce que
je pose une question, mec, il répond à une autre. Il fait.
Non, mais c'est pas parce que je
ton cerveau va trop vite, c'est parce que ton cerveau.
Non, mais je m'en.
C'est très drôle, attends, t'inquiète, je m'en fous.
Ah oui, est-ce qu'on a.
Est-ce que les.
Les complices.
Est-ce qu'il y a des condamnations
oui, les complices de R. Kelly. Bah, en fait, justement, le procès est d'une ampleur énormissime. C'est pour ça que ça dure depuis des années, c'est que ça n'est pas fini, en fait. Donc, R. Kelly, la condamnation est tombée pour 30 ans et il va faire appel. Donc, ça se trouve, on va lui donner encore plus, j'espère.
Il a quel âge?
Il a 55 ans. Il me semble.
J'ai été étonnée, 30 ans, c'est bien. Hein. Enfin, je veux dire,
ouais, mais il sera, ça trouve, il sera en vie quand il va sortir, quoi.
Oui, il a 55 ans, il est né le 8 janvier 1967
à Chicago.
T'es quand
même moins agressif quand t'as 80 ans.
Oui, bah, dis ça à Bill Cosby. Bill Cosby, justement, il a perpétué ses violences sexuelles jusqu'à très très tard. Donc ça, c'est un préjugé. Les personnes âgées ont aussi une vie sexuelle et aussi peuvent être des prédateurs sexuels. Enfin, il y a énormément de personnes âgées comme ça qui abusent de leur position d'autorité et aussi de l'impression qu'a le grand public qu'ils seraient inoffensifs. C'est hyper intéressant, Sophie, ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est qu'il y a des personnes âgées.
C'est une forme, c'est-à-dire ils vont pas faire des trucs qui sont forcément hyper physiques. Ça, c'est sûr que tu vas pas aller pourchasser des meufs dans la rue, ça c'est sûr. Mais par contre, ça peut être bien plus vicieux, ça peut être plus.
Oui, mais il a jamais eu besoin de pourchasser qui que ce soit.
Ouais, non,
lui,
mais
tu vois. C'est aussi ça le truc, c'est qu'il a jamais eu besoin, il avait juste à se servir. Exploiter des personnes vulnérables, en fait, des jeunes femmes. Tu parlais justement du fait que Epstein exploitait des jeunes filles qui voulaient se lancer dans le mannequinat ou voilà qui étaient déjà dans des agences. R. Kelly, c'était un peu la même. Enfin,
il allait dans ses fans.
Oui, il allait dans ses fans.
Des jeunes femmes qui voulaient avoir une carrière dans la chanson, qui voulaient avoir devenir choriste ou danseuse. Enfin voilà, qui voulaient quand même rejoindre ce milieu-là. Donc c'est hyper facile aussi d'impressionner, d'exploiter des jeunes filles qui justement d'un coup, se sentent repérés par le chanteur star qui leur dit « Ah bah oui, je vais donner un coup de pouce à ta carrière et écoute-moi parce que je vais pouvoir te donner des conseils. » C'est pas du tout des conseils.
Effectivement, t'as entièrement raison, Maëlle. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du grooming, de la prédation donc, et aussi de l'abus de pouvoir, de l'abus d'influence. R. Kelly, c'est pas n'importe qui, c'était un producteur ultra, ultra, ultra influent et un chanteur très, très connu, reconnu, apprécié par les États-Unis. C'est I Believe I Can Fly, c'était l'une des chansons les plus jouées dans tous les mariages. Genre. Et encore aujourd'hui, ça passe en soirée, parfois. Alors que le mec est un prédateur sexuel notoire depuis des décennies. Enfin, le mec, c'est hyper difficile d'estimer le nombre de victimes, mais ça frôle la centaine, voire plus.
Parce que là, j'ai pas vu un chiffre, genre 8, 9 ou je sais pas quoi.
Alors, il y a 9 plaignantes, il me semble qu'il y a 2 hommes.
Il y a 2 hommes et.
Attends, je vais regarder. T'as l'article sous les yeux?
Ouais, je peux le montrer là. Hop, regardez.
Il me semble qu'il y a 2 hommes et 7 femmes. Mais je crois qu'il y a le mauvais article sous les yeux.
9 femmes et 2 hommes.
Ouais.
9 femmes
c'est
et 2 hommes.
C'est ce que j'ai dit ou pas, je sais plus.
C'est à peu près ça, ouais.
Attends, j'ai pas écrit plaignante. Trop bizarre. Bon, donc il y a 2 hommes et 9 femmes. Parmi les plaignantes qui ont participé à faire tomber R. Kelly aujourd'hui pour ses crimes sexuels, mais pas que. Mais il y a un nombre incalculable d'autres personnes victimes de R. Kelly.
Mais qui sont pas plaignantes, du coup.
Qui sont pas plaignantes parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est que porter plainte, ça a un coût. Ça a un coût psychologique, financier, matériel. Et tout le monde ne peut pas porter plainte. Et encore une fois, les victimes de R. Kelly étaient bien choisies. C'était des personnes souvent racisées, précaires, isolées. Ou qu'il isolait lui et ah, son système de prédation, de domination. Et ce que je voulais dire, pour en revenir à Bill Cosby, où le fait d'être âgé, est-ce que ça fait qu'on peut moins agir? Bah, Bill Cosby droguait ses victimes notamment. Et il abusait aussi de sa position de mec, de papa de l'Amérique. Je suis un petit vieux monsieur, donc je suis inoffensif. Que nenni. Enfin, cette expression dans ce contexte n'a aucun sens.
Non, mais si,
c'est
si,
ridicule.
Si, si.
Et voilà, et donc Bill Cosby d'ailleurs récemment a lui aussi été condamné pour agression sexuelle sur une adolescente, je vous mets le lien dans le chat, mais en parlant du fait qu'on peut avoir l'air inoffensif et quand même faire des... Ah non mais je l'avais déjà mis. Je m'auto-précède.
Non mais c'est bien, il faut rappeler si jamais les gens veulent checker dans le chat.
Mais je pense à ton article, donc tout n'est pas comparable, mais je repense à ton article de décryptage, non à la piste que t'as commandée, excuse-moi, c'est pas toi.
Oui, c'était la tribune de Céline Extenso.
Oui, bah, oui, est-ce que tu veux contextualiser?
Ouais, tout à fait. Bon, on avait demandé, on avait contacté Céline Extenso, qui est une militante féministe anti-validiste, justement pour réagir à la défense de Damien Abad. Donc Damien Abad, qui est toujours pour le moment ministre des Solidarités, qui est accusé par plusieurs femmes de viol. Il y a une plainte qui a été déposée hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. Une enquête qui est en cours. Et justement, dans la défense de Damien Abad, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait cette idée que vraiment, comme c'est un homme handicapé, C'est impossible qu'il ait pu agresser sexuellement une femme.
C'est qui déjà ? Je suis désolée.
Pardon, c'est le ministre des Solidarités, ministre Damien Abad. Ouais, okay. Ministre des Solidarités.
Ministre des Solidarités.
C'est fameux, ça. Et justement, elle débunkait vraiment ses idées reçues autour de l'absence de sexualité des personnes handicapées. Alors là, on n'est pas sur une affaire de sexualité, on est une affaire de violence sexuelle. Hein, donc on va bien faire la distinction entre les deux de toute manière.
Mais non, enfin, dans tous les cas, enfin, genre, mais c'est pas le sujet, enfin, je veux dire.
Mais oui, bien sûr. Non, mais le fait est, c'est qu'il y a comme ça. Ce que génère cette idée, en fait, elle expliquait à quel point l'idée qu'un homme handicapé, de la même manière qu'un homme âgé, par exemple, l'idée dans notre tête qui serait que ces personnes ne peuvent pas être des agresseurs sexuels, c'est un résultat aussi de la culture du viol dans laquelle on baigne, qui est que le violeur, l'agresseur sexuel, est forcément un homme qui va être agressif, qui va dominer physiquement la personne, c'est-à-dire qui va pouvoir se déplacer rapidement, qui va pouvoir contraindre la personne.
C'est un homme dans la rue le soir à 20 heures.
Qui va vous sauter dessus et vous maîtriser physiquement pour vous agresser, en fait. Et l'idée, c'est que la contrainte sexuelle, elle peut s'exprimer de plein de manières, en fait. Et que justement, elle démontait toutes ces idées qui justement, sont un résultat de la culture du viol dans laquelle on baigne de toute manière. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, le titre était assez parlant, en plus. Un homme handicapé en position de violeur, ça semble inconcevable, et pourtant non, c'est possible. Et justement, ça joue notamment sur notre perception à nous, ça joue aussi sur la perception de leur propre sexualité, de leur propre comportement des hommes handicapés. Justement, elle parlait justement de la misogynie justement qui peut en ressortir de cette manière de plaquer des comportements sur les hommes en situation de handicap. Et donc c'était vraiment intéressant, et je pense que ça rejoint aussi certains préjugés qu'on peut avoir sur un vieux papy âgé, un beau vieux bonhomme ne peut pas
non, mais c'est intéressant, merci pour ta remarque.
Ça démonte en fait certaines choses, en fait, et c'est des préjugés qu'on a tous, en
tout
fait.
À fait,
oui, voilà.
Enfin, quand je dis la culture du viol,
c'est aussi
on baigne dedans, je m'extrais pas de ce truc, c'est que vraiment,
ouais, pareil,
c'est
hein.
Des,
oui, c'est ça.
Des idées, c'est des pareil. Préjugés dans lesquels on baigne parce qu'ils sont construits, et que bah, ce travail de construction, il est permanent, hein. On n'a pas la science infuse, hein. Nous, on apprend des choses. Moi, quand voilà, je contacte cette militante justement pour qu'elle puisse écrire là-dessus, je me rends compte aussi de mes propres biais là-dessus. On a encore, on a une caméra hyper capricieuse.
On va continuer, on est encore là. Hein.
Oui, alors écoutez, j'ai appris énormément de choses.
Non, mais donc, Erkili, quand il va sortir de prison, il aura... S'il reste, s'il purge entièrement sa peine, ce dont je doute.
Ce qui n'est pas garanti, il va y avoir un appel probablement.
Donc là, il a 55 ans, dans 30 ans, il aura 85 ans. J'ai grave réfléchi.
On va pas penser à notre âge non
mais
plus.
Il aura 85 ans, mais le boug, ça se trouve, il va encore faire des trucs, tu vois.
Enfin... Oui, c'est vrai. Non, mais écoutez, j'adore être chez Mademoiselle parce que j'apprends à déconstruire des choses chaque jour.
Ouais, très bien. Et nous aussi, on déconstruit.
Et de ouf, mais bien sûr.
Je veux pas du tout me positionner
en
sachant.
On est en mode genre, ah oui, ça si, on balance des grands concepts, mais en fait, il y a trois jours, on savait rien de rien. Donc,
et
vraiment,
pour le coup,
genre,
si je peux revenir, parce que là, on est sur Twitch, merci beaucoup, merci le chat d'être avec nous. En plus, à ce sujet-là, comment je me suis déconstruite aussi sur Twitch, et à propos de la culture du viol, c'est que parfois, quand t'es sur Twitch et que t'es une meuf, et que parfois des décolletés machin et tout, t'as des trolls, quand tu vas te plaindre de ces trolls, on va te dire ouais mais ils sont en misère sexuelle et ils sont pas bien et toi t'es là pour les aider machin.
T'es l'infirmière quoi,
t'es pas
l'infirmière
pour dire.
Bah les aider, tu leur parles, tu leur apportes de l'accompagnement, enfin tu vois, tu d'accord. Et puis après ça va avec tu en joues, etc. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet si vous voulez checker, c'était l'autopromo, voilà, c'est fini. Et au début, au tout début, quand j'étais sur, j'étais en mode bah ouais les pauvres, attends, ils ont pas de copines.
Ah,
vraiment
ouais.
Hein, vraiment but en main. J'avais 19
c'est ça,
ans, j'avais 18 ans.
La culture du viol,
ouais.
C'est que
mais
tu
vraiment,
finis par
ouais.
devenir complice parce que en fait on te pousse à adhérer à cette culture qui veut que il faut aider les garçons, les pauvres.
Ouais. Mais... Tu vas être l'infirmière de tous les types qui passent quoi, donc.
Non mais ouais, bullshit.
Bah voilà, c'est ça, c'est pour parler Twitch. Je sais pas si le chat vous avez un avis là-dessus
ouais,
ou pas.
Ouais, le
mais
chat, dites-nous tout. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous méfiez des papis?
Mais parce qu'on arrive à la fin aussi, c'est pour ça que je vous le dis. En plus, la caméra nous le fait bien comprendre, donc voilà.
Non mais je voulais juste filer toutes les histoires qu'on a ensemble, toutes les histoires qu'on vient de se raconter. C'est que R. Kelly, Bill Cosby, Damien Abad, sans mettre tout le monde dans le même panier, toutes ces histoires-là sont manifestes de la culture du viol, comme on le disait ensemble. Et aussi de à quel point, en fait, les violences sexuelles sont d'abord et avant tout des affaires de domination sociale. C'est pas des questions de sexualité triviales, c'est des affaires de domination sociale. C'est des gens qui sont en situation de pouvoir, qui peuvent l'exercer, influencer, enfin, influer avec leur pouvoir, leur influence médiatique ou gouvernementale, ou en tant qu'acteur, justement, donc ça c'est les médias aussi, ou en tant qu'artiste, comme R. Kelly, c'est des gens qui profitent de leur position sociale pour exercer une forme de pouvoir, et les violences sexuelles, c'est des affaires de domination, c'est pas des questions de sexualité comme vous et moi, quoi.
Enfin, pour toutes les personnes qui sont sur Twitch et sur Twitter, récemment il y a eu l'histoire avec Léo Grasset, je vais pas trop m'avancer là-dessus.
Mais Léo Grasset, même chose.
Mais effectivement, ne vénérez pas trop vos youtubeurs ou vos streamers préférés parce que. Et on sait jamais, souvent, il y a des bails chelous.
On va pas se prononcer sur cette affaire qui est en cours. Donc tout ce qui va être dit, c'est du conditionnel. Hein. Mais en tout cas, si jamais ce youtubeur ou quelqu'un d'autre. En fait,
ce youtubeur qui était hyper apprécié, enfin je veux dire
hyper apprécié, vraiment, qui se présentait comme progressiste, etc.
Féministe, et il était sur Brut pour parler du clito il y a un mois, enfin je veux dire c'est genre...
Et disons les termes, il était très beau aussi. Et, ouais. Et en fait, parmi les gens qui essayaient de le défendre dernièrement, il y a plein de gens qui disaient non mais il a pas besoin de ça. Et ça aussi c'est la culture du viol.
Il a pas besoin de ça, oui.
Les hommes beaux ne violent pas.
Oui, c'est
et
du gros
et les femmes
bullshit.
Moches ne sont pas violées. Si
et je dis pas ça pour vous plomber, mais en fait le pire espace dans lequel on peut subir des violences sexuelles, enfin l'espace où il y a le plus de risques de subir des violences sexuelles, c'est chez soi en fait. C'est avec des gens qu'on connaît et souvent de la famille.
On a confiance.
Voilà, c'est pas dans la ruelle sombre un inconnu en détresse sexuelle détraqué, c'est justement quelqu'un de sain qui vous connaît et qui sait pourquoi il peut le faire.
Ouais.
Enfin qui croit savoir pourquoi il peut le faire.
Et qui sait qu'ils peuvent obtenir votre silence aussi.
Ouais, l'impunité. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est que, en fait, c'est le viol dans la ruelle sombre où j'ai fait du jogging tard le soir, toute seule, c'est, en fait, tu as moins de risques que chez toi, hein. Enfin, bref.
Bon, dans tous les cas, ça peut arriver partout, tout le
temps. Oui, et même avec quelqu'un de beau qui vous connaît, que vous admirez, c'est au contraire, en fait.
Très bien, on arrive sur la fin. Sophie, un petit.
Bah non, mais écoutez, j'étais ravie de participer à ce débat, à tous les débats. Voilà. Et puis, j'espère que vous apprécierez les séries dont j'ai parlé au début.
Je vais aller voir Massimo, là. Je vais aller voir Massimo direct, là.
Et moi, j'ai deux mots à lui dire. C'est quoi, c'est Out?
Il y a Out, le
Out. Moi, je vais le regarder. Je pense que je vais le regarder dans les transports, en fait. Tout simplement. Quand je rentre. Maintenant, j'ai une heure de route pour rentrer chez moi parce que j'ai déménagé. Fait chier, en fait, voilà. Donc, j'ai 1h20. Et ben là, je pense que je vais regarder.
Mais t'as le temps de regarder Out et un épisode de Love Victor.
Voilà. Mais je suis grave chaude, en plus. Franchement, et Disney Plus, let's go.
Ça remonte le moral.
Voilà, exactement. Attends, c'était quoi les titres? Je crois. Love Victor.
Oui.
Out et Angels.
Ignorant Angels.
Angels. Comment dire en italien?
Ignorante Angels.
Non, c'est la. Ah, ça a encore coupé.
La Fata. Oh, en fait, regardez-moi, c'est tout. Voilà, regardez, c'est tout ce qui compte ici, en fait. Je vais rallumer pour juste dire au revoir.
Let's go. Anthony, un mot de la fin?
Bah, merci de nous accueillir si bien. Vous étiez 500 à nous suivre pendant tout ce live, c'est fou.
Merci beaucoup,
ouais, c'est clair.
C'était très très cool.
Merci à vous pour vos questions. On espère que
c'était
vous
hyper intéressant d'échanger avec vous. Ouais, merci à vous pour vos questions, effectivement. Et on espère pas trop vous faire bader. Au contraire, c'est de la prise de conscience.
C'est de l'actu, hein, c'est pas de l'actu, c'est de la merde, hein, je vous le dis.
Non, mais cette actualité-là, elle a beau être sombre, elle nous apprend beaucoup de choses.
C'est très important.
Et ça nous permet de progresser en tant que société, donc avançons ensemble.
Maëlle, petit dernier.
Merci. Moi, je suis toujours ravie de venir à Je le dis tout, même si j'avais peur de radoter follement après avoir parlé que de.
Mais
que
non, mais en plus, versus non. Les gens sont différents. Hein,
et voilà. Et je suis contente si vous avez appris des trucs et voilà. Et on aura d'autres occasions d'en reparler, évidemment. Donc voilà.
Dernier message de mathématicienne, c'est vraiment pas facile de se rendre compte des biais qu'on possède, surtout lorsque on est à l'intérieur du système qui engendre ces biais. Ceci dit, une fois qu'on a la main dessus, c'est important d'en reprendre connaissance et bien conscience continuellement pour supprimer les réflexes qu'on a tendance à avoir à cause des biais associés. Et totalement, j'ai compris toute cette phrase et tu as parfaitement raison.
Mathématicienne.
Exactement. On espère te retrouver encore la semaine prochaine pour Jeudi Tout. Jeudi Tout, comme dans son nom l'indique, c'est tous les jeudis. Oui.
Oui. Et juste je me suis mis sur le chat tout à l'heure et j'ai vu que Banzai est mathématicienne au moment où vous avez dit est-ce que vous voulez revoir Sophie.
On adore Sophie.
Voilà, ils ont
dit c'est bon, on va te revoir.
Cœur sur vous. Voilà. Je voulais juste dire ça.
Mais bien sûr qu'on va te récupérer, bien sûr.
Non, mais les jeunes, ils le font autrement maintenant.
Ils font comme ça. Ça, c'est un cœur. C'est coréen.
Non, c'est ça.
Et aussi, des fois, moi, j'ai vu ça à la Pride. Je t'avais. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui s'est. J'étais avec des potes et il y a des jeunes qui sont venus et ils ont fait ça. Ils sont approchés d'une de mes potes et ils étaient ça. Ils ont fait ça et genre, c'était pour faire ça. Et nous, on l'a regardé en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Tu les connais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Voilà, on savait pas. On était un peu chou, mais c'est parce qu'on est vieux.
Ouais, je crois qu'on devient vieux. C'est terrible. Passez à toi, Aurélien. Très bon jeudi. Très bon jeudi.
Bonne
après,
fin de semaine et bon week-end.
Mademoiselle, Mademoiselle est de nouveau en live à 16h tout à l'heure pour du jeu vidéo. Voilà, on aura jusqu'à 20h. Ça va durer de 16h à 20h. On aura Mr. Dwight et CK, il me semble, l'un à la suite. Je vous fais des gros bisous. Putain, il y a LMK ce soir.
Oui.
C'est fou.
Are you ready?
Tu veux en parler?
Je crois que j'ai éteint mon micro. Dites-moi si vous m'entendez.
C'est vers le haut ou pas?
C'est vers le haut, mais...
C'est quand t'es vers le haut.
Ce soir, il y a LMK, les amis. LMK, c'est quoi? C'est Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est quoi?
Ah bah, Laisse-moi kiffer, Camille. Très bonne question. Bah c'est
voilà,
un podcast produit par Mademoiselle. C'est un podcast où une bande de potes de Mademoiselle se papote de ses kiffs récents. Ça peut être des kiffs culinaires, ça peut être des kiffs culturels, ça peut être des kiffs de la petite vie, des gens qui réalisent des trucs.
Je
sur,
peux être votre
kiff,
si vous voulez.
Voilà, Camille, tu es mon kiff tous les jours, finalement. Voilà.
Bien sûr.
Mais toi aussi, Maëlle.
C'est la fin du mois des
et je vous le dis devant vous, contrairement à l'autre série où le mec cache tout. Bref.
Massimo.
Et ça sera ce soir
Angels.
À 20h avec toute la team LMK.
Il y aura Aïda, il y aura Mimi, il y aura Matisse et il y aura moi-même pour vous servir. Voilà.
N'hésitez pas à interagir dans le chat, ça sera ce soir à 20h. C'est très 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 cool. On vous fait tous des gros bisous en attendant. On se retrouve à partir de 16h jusqu'à du coup
23h
en fait, on va être en live.
This is the reason.
Waouh, on va être en live super longtemps. Et ben écoute, de 16h à minuit, voilà les amis, lancez-vous à fond. On sera sur Mademoiselle. Gros bisous tout le monde.
Attends. Je voulais dire un truc, c'est s'il y a des gens parmi vous qui vivent en région parisienne et qui font du roller, ne me laissez pas seul, s'il vous plaît, ce week-end.
C'est parti.
Il y a rendez-vous, une Skate in Paris, qui est un premier festival de patins à roulettes. Je ne suis même pas sponsorisé, je ne suis même pas ambassadeur, je suis personne. Wesh, sponsorisez-moi. Non, je rigole. mais venez faire du roller avec moi, ça va être cool. C'est vendredi soir à la Grande Serre de Saint-Ouen. C'est samedi après-midi, une randonnée de Pantin jusqu'à Paris en roller. Mais si vous voulez pas faire une randonnée en pleine rue dans Paris, le soir au Carreau du Temple à Paris, il y aura aussi patinoire, roller dance. On pourra danser sur le parquet
ça,
du Carreau
stylé,
du Temple.
Ça.
C'est grave stylé. Voilà, je crois qu'au Carreau du Temple, ça va partir de 19h et la rando à Pantin, ça va partir de 14h.
Randonnée.
C'est redit, quand est-ce que c'est?
C'est tout le week-end, c'est vendredi soir à Saint-Ouen, samedi après-midi de Pantin à Paris, puis au Carreau du Temple à
Paris. Ça s'appelle vraiment une randonnée ?
Oui, c'est un rando skate.
Si je veux finir là, on va jamais y arriver.
Et enfin, oh wow, vous voulez que je ferme ma bouche ?
Non.
Et, ben, et dimanche après, à Aubervilliers, voilà.
Il y a le lien dans le chat.
J'ai mis le lien dans le chat. Venez faire du roller avec nous.
Si vous n'êtes pas à Paris, partagez à ceux que.
Et vous pouvez louer des patins. Si vous n'avez pas de patins, c'est 5 euros la location de patins pour l'après-midi.
Ce que j'avais demandé. Je suis très intéressée, j'habite à Saint-Ouen donc.
Ah, mais viens avec moi, Sophie.
On habite pas loin, nous. Bon, je vous fais des bisous,
oui.
Tout le monde.
Bisous.
Ciao.
Bisous.